podcast.com. Essaye ça.
Trachoir, épisode 236, service inhospitalier. Salut Martin.
Je t'aime, Frank.
Ah, moi aussi. Que me vaut cette déclaration?
Ben, ça va être la Saint-Valentin dans deux jours. Fait que j'ai décidé qu'on règle ça tout de suite.
Bon, fait que t'es mon Valentin.
Explique-moi ça, maman. Non, je veux rien savoir.
Ça va être la fête de maman, moi aussi. Moi, c'est ça, le 14 février. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin, mais... C'est la fête de ma maman, puis je vais essayer de l'appeler pour être un fils un peu moins indigne pour faire changement. Toi, Martin.
Ben, réussis donc à la place.
Ouais. Je vais essayer ça. Je fais dur en
moi. There is no try.
There is no try. Do or do not. Puis, ce que toi aussi tu vas devoir faire et réussir, c'est des actus conspi, Martin.
Actualité conspi.
Écoute, je suis évidemment encore dans la ruelle de Facebook. Je ne partirai pas là-dessus, je vous rassure tout de suite. Mais évidemment, ben, ça fait en sorte que je suis beaucoup moins, pour ne pas dire pantoute actif sur cette plateforme. Mais je veux te parler, parce qu'on a un invité important, là, mais je veux te parler de quelque chose qui m'a... Écoute, là, je pensais pas que je pouvais me faire plus garrocher à terre que ça. Par cette personne-là. Je vais te lire un tweet, puis on va en parler après.
Okay.
Parce que c'est clair que tu vas avoir des affaires à dire, toi aussi. C'est pas correct de toutes les façons imaginables. Je tiens à vous informer que je n'étais pas invité aujourd'hui à Laval par François Legault afin d'être présent avec les autres chefs de l'opposition. La tragédie est beaucoup trop importante pour que nous nous abaissions, je vais te le lire comme c'est écrit, pour que nous nous abaissions, mais S apostrophe, abaissions, à faire de la politique sur cette tragédie ou à dénoncer cette arrogance, ce mépris et cet oubli. Les événements protocolaires importent tellement peu en de telles circonstances. L'essentiel est notre solidarité et la compassion à l'endroit des familles éprouvées. Merci à toutes celles et à tous ceux qui viennent en aide aux victimes de ce drame, nous sommes tous présents auprès de vous dans nos pensées et dans nos cœurs. Quel tweet de marde!
Tu vois, dans la deuxième partie, qui essaie de rattraper le fait qu'il instrumentalise cette catastrophe-là pour essayer de faire valoir le fait qu'il n'est pas reconnu à ce qui est dans sa tête sa juste valeur par l'Assemblée nationale.
Je suis assommé.
Je pense qu'on devine que c'est Éric, là.
Ben, c'est bien sûr. Tu sais, je tiens à vous informer que j'étais pas invité aujourd'hui à Laval par François Legault. Que c'est qui t'empêchait d'y aller? Que c'est qui t'empêchait d'y aller?
Il n'aurait pas pu faire ce magnifique tweet-là où il se pose en victime. Qu'est-ce que c'est ça?
On parle, Frank, on parle de la tragédie qui s'est déroulée à Laval cette semaine et ça commence par Éric Duhaime qui parle de lui.
Écoute, c'est déshonorant de sa part. Il s'est déshonoré en faisant ça. Je veux dire, comme tu dis, il aurait pu juste y aller. Mais il a décidé de pas y aller et de se poser en première victime de cette situation-là et d'instrumentaliser ça pour faire valoir son argumentaire comme quoi il devrait être inclus puis reconnu puis ci puis ça. C'est pas de la politique là qu'on fait là. Tu sais, c'est t'avais juste à te faire élire. Après, je veux dire, vis la vie qui correspond avec le niveau d'électorat que tu as réussi à rejoindre. Après ça, viens pas nous achaler puis va pas instrumentaliser une tragédie pour essayer de nous rappeler le fait que tu devrais être plus reconnu. C'est pour vrai, c'est bas, c'est très bas. C'est un autre sous-sol de creuser par Éric Duhaime pour pouvoir s'enfoncer encore plus bas dans la morale. C'est pas comme ça que tu vas être reconnu, Éric.
La quantité de raisons pour laquelle ces caves est innombrable dans ce tweet-là. OK, premièrement, ça traite de quelque chose de tellement plus important que toi, puis trouve en parlant de toi. Ça, c'est la première affaire. Puis là, je veux pas faire, tu sais, on jouera pas à opération sur tous les tweets d'Éric Duhaime, là, mais celui-là en particulier, ça me fait halluciner. Après ça, la tragédie est beaucoup trop importante pour que nous nous abaissions, t'aurais pu l'écrire comme du monde, à faire de la politique sur cette tragédie ou à dénoncer cette arrogance, ce mépris et cet oubli. Qu'est-ce que tu es en train de faire d'abord? C'est pas moi qui va dire que telle affaire est pas correcte. Mais c'est pas correct. C'est du passif agressif de secondaire 1 que ça a aucune espèce de bon sens. Un enfant de 11 ans peut voir à travers ce jeu puéril et pas mature. Ça a aucune espèce de bon sens. Je suis assommé. C'est le genre de tweet duquel il devrait s'excuser tant qu'à moi. Je suis assommé. Je suis assommé de cette affaire-là.
Ça me fait capoter. Je pense pas qu'il le fasse, hein. Je pense pas qu'il ait cette humilité-là.
Les événements protocolaires importent tellement peu en de telles circonstances. Ben, pourquoi tu brailles? C'est une chose et son contraire en tout. Tu sais, ça n'a aucun espèce de bon sens.
C'est déshonorant pour lui. Je trouve que c'est déshonoré en faisant ça.
Je peux pas croire. On en a parlé beaucoup, puis tout. Puis, tu sais, à un moment donné, j'imagine que du monde vont dire, viens-en, Godette. Mais, tu sais, moi, je me disais, après la campagne électorale, ben là, tu sais, il a lui-même dit, on va essayer de professionnaliser nos affaires. Ben, ça peut-tu commencer par toi?
Bonne suggestion.
Tu sais, la personne que tu dois le plus professionnaliser là, à lire des tweets de même dans ton parti, c'est toi. Moi, je suis assommé bien raide. Le manque de tact, le manque de flair, le manque de gros bon sens, l'absence totale. Tu sais, je suis assommé. On dirait les excuses de Stéphane Blais au Dr Julien.
Oui, c'est ça. C'est assez maladroit, ouais. C'est assez désolant de voir ça. Ben écoute, moi, il contribue à sa descente, là. Je pense pas que ça va l'aider, des choses comme ça. Je sais que le but de ce tweet-là, c'était de... Tu sais, il se bat pour exister, Éric Duhaime, hein? Puis il se bat pour être reconnu, sauf qu'à un moment donné, la bienséance et la dignité devraient le guider à fermer sa gueule une fois de temps en temps, ce qu'il n'a pas su faire une fois de plus.
C'est pas... Tu sais, là, je veux pas déchirer ma chemise non plus, là, mais je suis absolument totalement sidéré. T'sais. La fin de son tweet, c'est merci à toutes celles et à tous ceux qui viennent en aide aux victimes de ce drame. Nous sommes tous présents auprès de vous dans nos pensées, dans nos cœurs. Commence avec ça! Finis pas avec ça, là!
Comme pour rattraper de la bouette que tu viens de dire. Non, pour vrai, c'est très maladroit.
C'est dégueulasse.
Tu sais, quelle sorte de on dirait que la morale n'entre plus en compte quand il est question de son avenir politique.
Je suis tombé là-dessus purement par hasard. Écoute, tu sais, quand tu vas lorsque tu te rends sur un compte Twitter, tu sais, il y a ce qu'on appelle une bio, tu sais, c'est très court. Faut que ça dise ce qui t'essaye de t'auto-représenter. Sais-tu c'est quoi celui du Parti conservateur du Québec? Tu vas mettre un mantra ou tu vas mettre, tu sais, quand c'est un parti, une compagnie, là, ouais. Spécialiste en fausse sceptique, whatever. Ben, Parti conservateur du Québec, eux autres, c'est avoir du front. Ben, Éric Duhaime, ça peut pas être plus applicable après avoir lu ce tweet de Mayella. T'as vraiment du front tout le tour de la tête. Honnêtement, là. C'est pas, tu sais, je peux même pas justifier cette boîte-là par, ah, mais tu sais, il essaye de faire son shock jock ou de tirer d'un rating avec ça puis choquer le monde. T'es pas mieux comme chef de parti politique que certains partis politiques que ça me tente même pas de leur faire de la pub, là, à titre de maillet.
Non, c'est pas avec ça qu'il s'est élevé, en tout cas. Ça, on peut le dire.
Exactement. Un autre qui... je serai pas dans l'amour, je vous le dis tout de suite, dans ces actus conspi-là. Je sais pas si c'est le break de Facebook qui me fait sacrer plus après ce que je vois ailleurs. Écoute ça, Maxime Bernier, ça s'est passé sur Facebook, ça. Il a pris une photo de lui au champ de tir. tu sais, la transformation est complète. C'est maintenant officiellement un Américain.
C'est un politicien du sud des États-Unis qui n'évolue pas dans son environnement naturel. Là, il manque juste des campagnes publicitaires où il tire du gun sur des pancartes des portraits de Justin Trudeau. Il manque juste ça. Là, ouais. USA. Ah ouais, let's go.
Ah ouais, mais tel un Kojak de ce whatever. Je suis rendu à court de sobriquet pour ça, ce maillet-là. Cheveux de prince! Lui, tu sais, il a reposté ça sur Facebook, puis il a ajouté: on devrait tous prendre ce type de formation. Toi, là, Frank Pocket, là, ça te tente-tu de t'imaginer un monde dans lequel Stéphane Blais, il a un gun? C'est pas moi. Même d'un chantier, là, partez-moi pas en peur. Ouais, mais là, d'un chantier, puis il y en a que c'est du tir récréatif. C'est pas à propos de ça, là, ce que je dis.
Est-ce que vous verriez quelqu'un avec aussi peu de jugement et qui semble aussi peu équilibré à avoir accès à une arme à feu? Non.
Non. Moi je ça me tente vraiment de partir une pétition pour ne pas que
tu sais, quelqu'un qui pense que le gouvernement est en train de nous subjuguer en établissant une dictature. Lui, je veux pas qu'il ait de gun. Tu sais, quelqu'un qui a ce genre de manque de jugement-là, de manque de culture et non, s'il vous plaît, non.
Tu sais, puis oublie pas ça.
Je suis pas en train de dire qu'il reste du monde, là, mais je veux pas qu'il y ait ça.
On est pas en train de dire que c'est un tueur en puissance.
Non. Mais je pense qu'on a établi dans les deux dernières années que le jugement n'est pas sa qualité principale.
C'est quoi la dernière affaire que tu veux mettre dans les mains d'un gars qui n'est pas capable de passer son tour, Frank?
Un gun.
Mais là, évidemment, il faut pas oublier non plus que, blague à part, il faut pas oublier non plus que ce gars-là représente quand même, là, je le sais pas le décompte, puis pour tout vous dire, très honnêtement, m'en calisse, mais il représente quand même, je vais arrondir vraiment gros, là, peut-être quelques mille personnes qui font partie de sa patente à gosse, qui est le club des ambassades saucées. Et, tu sais, il a mentionné publiquement que l'un de ses objectifs, c'était, tu sais, genre des phrases comme « Joignez-vous à nous pour que nous puissions créer ce nouveau monde. » Mais ce gars-là, il mentionne aussi que tout le monde devrait prendre une formation pour pouvoir utiliser une arme à feu.
Il va être beau, ton nouveau monde.
T'entends pas le tricot? T'sais, c'est cool, le tricot?
Pourquoi tout le monde devrait savoir manier une arme à feu? Est-ce que c'est dans l'esprit, tu sais, justement, du sud des États-Unis où, si jamais le gouvernement ou ben l'Empire britannique veut prendre ses colonies, il faut qu'on ait de quoi se défendre? Contre qui tu veux te défendre, Blais, à coup de gun? Contre la police? Contre l'armée?
Non, Frank, c'est pour relaxer. Voyons, ouais, ça détend de tirer du gun. Oui. Maxime Bernier, il le fait, puis il est super zen.
Non, mais tu sais, quand tu penses que... Juste le fait qu'ils pensent que ça pourrait être une nécessité pour les citoyens de savoir manier une arme meurtrière, déjà là, c'est un red flag, là, OK? Lui, c'est non!
écoute, je vois pas ce qu'on peut ajouter à ça. J'aime pas cette idée-là.
Je laisserais pas une pelle ronde dans les mains, là.
J'aime pas cette idée-là. Une autre personnalité de la complosphère québécoise qui écoute ça. Ça se rend mieux de pas. Écoute, c'est arrivé cette semaine, ça. Gloriane Cunégonde Blais, on sait, hein, cette avocate qui a été radiée du barreau, à qui on a demandé conditionnel à tout ça, c'était qu'elle passe un examen psychiatrique. Je veux pas inventer de mots, là, mais il me semble que c'était ça.
Une évaluation psychiatrique. Une évaluation psychiatrique. Pour qu'elle puisse garder son titre de maître.
Merci. C'est exactement ça. Et ce qu'elle a refusé, elle s'est vue radiée. Et, on est rendu là que t'as même plus besoin de faire de demande. T'as même plus besoin de justifier quoi que ce soit. Le 17 janvier, je t'en avais parlé, elle avait fait une publication. C'est une empilade sur Twitter. Là. Je vais juste te lire le premier. Je te lirai pas la lettre aux Corinthiens, là, mais c'était « Donc, maintenant, Il y a plein de monde qui ont parlé de ça. Là. Tout le monde qui suit ça sait de ouais, quoi je parle. Penser, ouais. Peut-être ne vois-tu pas ce que je fais pour toi, pour tes enfants et pour l'ensemble du peuple québécois, canadien et du monde. Peut-être serait-il temps que tu t'imagines tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait et que je continue de faire. Là, après ça, ça continue, mais en gros, c'est une sollicitation de dons. C'est solliciter des dons, c'est pas illégal au Canada. Non. C'est pas vers ça que je m'en vais.
Mais elle aide la planète, hein, l'humanité.
Le monde, le monde. Et là, ben, elle ressort ça un mois, un petit peu moins d'un mois plus tard, et c'est un retweet. Et la seule chose qu'elle dit, c'est « don, s'il vous plaît ». Tu sais, t'as même plus besoin de faire l'effort minimum de dire « gardez parce que moi, je... » Non. Je retweet, puis regarde. Il y a des logiciels pour ça, Glo-Glo. Il y a des applications qui te permettent de riposter, puis tu peux carrément juste dire « refais-les dans 30 jours, puis tu seras pas obligé de... » Tu vas sauver bien du temps, oui, parce que visiblement, tu es quelqu'un de très occupé.
Oui,
donc, il faut que tu optimises ton temps. Oh, oui, exactement. Alors, écoute. Puis là, ben, la pièce de résistance, ça sera pas des très énormes ActuConspis cette semaine, parce que, écoute, je te fais part de d'affaires qui ont tiré mon attention cette semaine. Le 11, Elon Musk lui-même, le trollardaire, il va de ce tweet. Tu sais, là, si c'était Pierre-Jean-Jacques qui faisait ce tweet-là, je m'offusquerais pas de ça, là. Mais là, c'est Elon Musk. C'est l'homme le plus riche de la Terre, le propriétaire de Twitter. OK? Some of the smartest people I know actively believe the press. Amazing. Certaines des personnes les plus intelligentes que je connais croient ce qu'ils lisent dans la presse. C'est incroyable. Tu sais, si Pierre-Jean-Jacques fait un call demain, tu sais, et ça, là, ça a été vu des millions de fois, là. Fait que t'as le gars le plus riche, on peut présumer qu'il a du stroke hein, dans l'univers de la Terre. Là,
ouais, c'est pas comme Glo-Glo. Il y a un impact toi, dans le monde pour vrai. Là.
Oh, ouais, lui, il peut appeler du monde que moi et toi, on peut pas appeler. Okay?
Ouais.
Et richissime, propriétaire de Twitter, d'entreprise, name it, là, Neuralink, Tesla, name it. Mm-hmm. Qui fait un tweet comme ça. Tu sais, je veux bien le trollage, là. Puis, tu sais, c'est pour spinner l'algorithme de Twitter. Puis, tu sais, quand il fait des affaires...
Moi, c'est sûr que je lis là-dedans, là, c'est qu'il essaie de faire marcher son Twitter qui est basé sur de la vraie, vraie liberté, la barté d'expression. Puis, tu sais, c'est ça que je lis, moi. Il essaie de brasser ça pour promouvoir son affaire, là. C'est pas...
Ben, regarde, moi aussi, c'est ça que je veux. C'est ben, ce que je veux
ça voir. Va être le même, là.
Mais, il reste pareil que, tu sais... En tout cas, je suis pas capable de traiter ça comme si c'était, tu sais, un autre... Tu sais, c'est parce que c'est pas tout le monde qui va prendre ça comme moi pis toi, Frank. C'est pas tout le monde qui va dire « Hey, même Elon Musk, il dit qu'il faut pas croire qu'est-ce qu'il y a dans les journaux. » C'est ça le problème.
Ceux qui sont déjà des partisans de la désinformation et par extension de Twitter, ben eux autres, c'est ce qu'ils vont... Attends, même lui, il sait pis il dit pis il est donc intelligent pis il est donc brillant pis il a raison pis ça va conforter les conspirationnistes pis les gens qui sont des proies à la désinformation.
Voilà.
Ça va les conforter dans leurs croyances. Tiens. Même lui, il dit, puis là, c'est pas n'importe qui, là, hein? Tu sais, fait que c'est le même effet que quand Trump parlait de fake news, puis on voit ce que ça a donné, là. Trump a tellement donné un élan à la désinformation pendant sa première campagne électorale et tout au long de son mandat, et encore aujourd'hui, un peu moins aujourd'hui, mais quand même... Il a tellement donné un élan à la désinformation en disqualifiant tous ceux dont les nouvelles ne lui profitaient pas, là, ne servaient pas le narratif ou le personnage qu'il essayait de nous présenter. Là. Alors qu'on a répertorié ses mensonges. Là. C'est comme 18 000 en dedans quelques mois.
Ah, oh, c'était 30 par jour.
Oh, oui, c'est ça. Il a 30 mensonges par jour, puis tout en discréditant ceux qui font de la vraie information, eh bien, ça a donné ce qu'on a vu, là. Puis on en subit encore les conséquences aujourd'hui. Puis là, Elon Musk, qui a décidé d'aller jouer dans les mêmes tales et d'exploiter la même ignorance et la même faiblesse de certaines personnes, redonne un autre élan à ça.
Je te lis un tweet. Faut que tu essayes de deviner qui a dit ça. Il y en a qui sont dans le chat, les Old Stakers, qui sont avec nous dans backstage. S'il vous plaît, ne divulgâchez pas, parce qu'ils risquent d'en avoir parmi vous qui vont le savoir. Si j'étais présidente et militante pour la paix, je n'irais pas dans d'autres pays qui aient été de l'armement pour perpétuer la guerre, mais je négocierais la paix à tout prix pour le bien de mon peuple. Toute ressemblance avec des personnes existantes, est purement fortuite.
Ouais, je parle pas de Zelensky. Non.
C'est qui tu penses qui a écrit ça?
Oh, ça pourrait être du Julie, ça.
Ah, c'est un bon pic. C'est une bonne sélection, mais non.
Plus haut, plus bas. Est-ce que c'est Mme Reince-Foufoun?
Oui, bien sûr. Et bien sûr. Mais Dieu merci, Frank, Amélie ça n'arrivera Paul. Jamais. Elle ne sera jamais présidente d'aucun pays.
Non.
Puis là, évidemment,
elle ne sera pas d'aucun village non plus.
Non, puis elle va s'empresser de nous dire que ça n'a jamais été faisant partie de ses aspirations. Mais pourquoi tu nous dis que tu ferais si tu l'étais d'abord? On s'en calisse! Fait que voilà.
Ah, écoute, un autre qui se bat pour exister, là.
Ouais, je suis pas mal émotif aujourd'hui. Hein. Ben écoute, oui. C'est l'amour. C'est à cause de l'amour, bien sûr. Mais écoute, faut que je te parle d'une autre affaire. Là, faut que j'aille la trouver. Là, puis écoute, c'est l'émotion. Mes émotions sont à fleur de peau en cette fête de l'amour. Mais écoute, tu sais que je me plais à casser du sucre un petit peu sur Marjorie Taylor Greene et je pense que j'ai bien raison de le faire, que cette personne-là soit dans une position qui lui permette de prendre des décisions au sujet du peuple américain va toujours me sidérer. Mais écoute, moi, je ne trippe pas sur l'appellation Karen, OK? Mm-hmm. Mais...
C'est plate pour les personnes qui s'appellent Karen puis qui sont pas fun.
De un, puis de deux, ben, tu sais, bon, il y a un peu de... Je dois être trop woke, ça doit être ça. Mais je ne trippe pas là-dessus. Sauf que, dans le cas de Marjorie Taylor Greene, c'est difficile de ne pas faire cette analogie-là. Je suis désolé, là, mais tu sais, je fais pas ça à propos de toutes les femmes que je croise qui chiolent à propos de quelque chose.
Pour ceux qui sont pas au courant, j'imagine que tout le monde le sait, mais on ne sait jamais. Ah, ben, une Karen, c'est la madame qui exige que le gérant vienne expliquer pourquoi que, tu sais, puis qui fait des crises et qui a des demandes souvent très égoïstes et qui fait des crises à propos de quoi que ce soit et qui pense que la Terre devrait tourner autour d'elle-même. Puis là, il y a un équivalent masculin qu'on appelle des Kevin. Désolé pour ceux qui portent ces deux noms.
C'est la madame pas contente, tu sais, dans le fond, là, mais très caricaturale, très, tu sais, bon. Disons que ça fait que c'est des gens c'est difficile d'apprécier ces gens-là. Fait que...
C'est ceux qui s'octroient le droit de ne jamais être contrariés.
Ouais, c'est ça, puis ils veulent tout alléger. Fait que, elle est dans une... Elle a des gens attroupés autour d'elle et elle explique... que lorsqu'elle a parlé au département de la Défense, elle leur a donné un char de marde à propos de leur... Et là, je cite, à propos de leur bullshit au sujet de la balloune. Parce que en quoi avez-vous pu permettre que cette balloune-là traverse mon pays quand on sait qu'ils peuvent utiliser ça pour disséminer des armes biologiques comme le COVID?
Oh! Écoute, je... Crise de folle. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
Ça n'a aucun espèce de bon sens. On les a vus d'ailleurs, on en a parlé dans l'Express, mais j'ai vu plus de vidéos que j'en avais vues. Pendant l'adresse à la Nation. Écoute, j'avais l'impression de voir deux football moms à la game de leurs enfants là,
crier après
l'arbitre. Ça n'a aucun espèce de bon. L'investiture, Tommy il a lâché ce call-là, puis je suis 100% d'accord avec lui. L'investiture de Donald Trump, l'investiture républicaine pour les prochaines élections va être le shit show du siècle. Ça n'aura pas de sens.
Ça va être Cuba contre Cuba contre Cuba. Ça va être ridicule.
Ça n'aura aucun espèce de sens. Puis là, trompez-vous pas, là. Tu sais, les gens en présence, et là, ici, je parle de Donald Trump, sans dire que Joe Biden est un spring chicken, mais Donald Trump, là, s'il ne gagne pas cette investiture-là, c'est fini, là.
Oui, c'est fini.
C'est terminé, là. Je peux pas croire qu'il reviendrait dans 4 ans puis qu'il va dire qu'il s'est fait encore voler l'investiture plus l'élection si jamais il gagnait, tu sais. Fait
non, que, même sa secte risque de tomber.
Ouais, c'est un pari assez secure, tu sais. C'est quand même assez un safe bet de dire que si Donald Trump ne remporte pas l'investiture, parce que évidemment il y a beaucoup de spéculateurs qui eux prétendent, puis ça fait du sens. Je dis pas que je suis 100% d'accord, mais ça fait du sens. Tu sais, l'accession à l'investiture républicaine peut également signifier pour lui un gros break sur les moult poursuites dont il fait l'objet.
Ben, il y en a beaucoup qui pensent que c'est la raison de sa course, là, t'sais, que peut-être, dans le fond, il veut pas nécessairement redevenir président, mais le fait qu'il soit en campagne électorale, et ce serait la raison pour laquelle il a commencé si tôt que ça, c'est pour se prémunir contre des poursuites judiciaires, parce qu'il croit qu'il devient intouchable, mais des analystes ont dit qu'il se trompait lourdement, ben souhaitons-le.
Ouais, puis, non, c'est
à propos des ballons espions, là, puis tout, si vous voulez entendre des commentaires pertinents à propos de ça et informés et pas des folies de MGT, là, on va recevoir Stéphane Roussel pour nous en parler pour l'Express.
Excellent. Puis tu vois, il y a un des All-Stakers qui fait le très pertinent commentaire au sujet de Marjorie Taylor Greene. C'est donc dire qu'elle reconnaît que le COVID existe.
Oui, ben oui.
C'est si la tu Chine peux en shooter des ballons,
des petits ballons, puis alors qu'en Chine, ils sont pas du tout touchés. Hein?
Ah non, c'est ça. Puis là, Frank, écoute, je sais pas trop comment interpréter ça. Là. Oui, évidemment que je suis un néophyte en matière de Twitter. Je parle sur une base personnelle. D'ailleurs, c'est la façon de me suivre maintenant. Si vous vous intéressez à ce que je fais, allez sur Twitter, c'est GoMartGAUMART, vous allez me trouver facilement. Mais là, je suis plus actif là, évidemment. Et figure-toi donc, il y a une personne dont je vais taire le nom parce qu'on s'en calisse, qui m'a ajouté à une liste qui s'appelle les gauchistes. Tu peux créer des listes sur Twitter puis mettre du monde dedans.
C'est pour ça, GoMart, c'est pour gauchiste Mart.
Non, pas vraiment, c'est Godette.
Ah! Godette.
Contraction de mon nom de famille et prénom. Un ramassis des inepties venant régulièrement de nos gauchistes. Et je suis officiellement dans cette liste-là. Alors, écoute, faut que je me bombe le chest. Je suis heureux. Quel accomplissement. Achievement unlocked.
Extrémiste gauchiste.
Radical. Il y a des influenceurs qui m'ont fait part du fait qu'eux n'étaient même pas sur cette liste-là. Donc, écoute, je m'en réjouis, n'est-ce pas? Quel plaisir, quel honneur et... écoute, toi, la personne qui m'a mis dans cette liste-là, si ça te rend tout warm and fuzzy, ben, grand bien t'en fasse.
Mon cher.
Ça fait le tour, Frank. Il me semble que j'ai pas eu d'amour pantoute pendant ces actus conspires. Fait que.
Ah, regarde, on va arrêter ça là. C'est ce déferlement de haine radicale de gauche. Et puis, on va aller parler avec notre invité d'aujourd'hui qui est un paramédic qui a fait la manchette avec un tweet qui dénonce une situation particulière. On revient avec ça dans le crachoir épisode 236, service inhospitalier.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Le crachoir épisode 236, service inhospitalier. Pourquoi service inhospitalier? Ben, Colin, on dirait que le ministère de la Santé manque un petit peu pas d'hospitalité, mais de reconnaissance, on va dire comme ça. On va en parler avec Marc-Olivier Plante, qui est paramédic. Il a répondu à l'appel du ministre de la Santé pour prêter main forte au réseau de la santé au plus fort de la pandémie avec « Je contribue ». Mais les conditions auraient changé récemment, notamment les conditions salariales. Salut Marc-Olivier, ça va?
Salut les gars, ça va vous autres?
Yes. Ça a bien de l'allure. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tu as répondu à l'appel via l'espèce de plateforme, le programme Je contribue, c'est bien ça?
Oui, C'est ça. Alors, il faut remonter dans le temps un petit peu au plus fort de la pandémie quand que les ressources manquaient puis qu'il fallait faire beaucoup de dépistage puis il y avait des éclosions partout puis il fallait faire un contrôle des éclosions de la pandémie. Puis le ministre de la Santé ainsi que le premier ministre François Legault avait fait un appel aux professionnels, aux retraités de dire pouvez-vous, tu sais, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Ils ont créé la plateforme Je Contribue. Puis ça faisait en sorte que ça skippait un peu la paperasse des ressources humaines dans les CIS et CIUS. Puis ça permettait aux gens d'aller directement sur le terrain pour travailler. Puis les paramédics, on a fait partie de cette gang-là, de ce lot-là. Puis le but, c'était d'aller dans les cliniques de dépistage pour prendre les infirmières puis les renvoyer dans les centres hospitaliers parce qu'il y avait un problème là aussi. Mm-hmm. Puis, c'est ça, au plus fort, moi, j'y ai été. Ma conjointe aussi y avait été. Ainsi que partout au Québec, les paramédics, là, on a répondu à l'appel.
Si je me trompe pas, les paramédics sont pas employés normalement par le ministère de la Santé et Services sociaux. C'est des compagnies privées qui gèrent les services ambulanciers, c'est bien ça?
Exactement. C'est dans le préhospitalier, il y a plusieurs façons. C'est premièrement, t'as exemple Urgence Santé qui est sur l'île de Montréal-Laval. Ça, c'est une compagnie, c'est parapublic. Ça, c'est directement le ministère qui gère ça. Puis ensuite, dès que tu sors de l'île, le reste du Québec, c'est en grande majorité des compagnies privées, mais il y a aussi des OSBL puis des coopératives.
OK. Et puis là, j'imagine que c'est un contrat différent avec le gouvernement, j'imagine. C'était pas via l'entreprise pour laquelle tu travailles à titre de paramédic. Tu faisais des démarches comme un nouvel emploi, un nouveau contrat.
Oui, c'est ça. T'es pas pour aller faire du dépistage ou de la vaccination, on n'était pas libéré par notre employeur sur l'ambulance. On était embauché, c'est carrément à part, puis c'était sur notre temps personnel qu'on y allait, dans le fond. Fait que moi, à titre d'exemple, là, moi, je travaillais 16 jours en ligne, j'étais sur un arrêt de conditifaction sur l'ambulance, puis dans mon séjour de congé, je passais mes 16 jours à la clinique de dépistage. Je faisais mes 16 jours, après ça, quand mon séjour finissait, je recommençais sur l'ambulance, puis j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Puis, il faut comprendre que au ministère, le titre de paramédic n'est pas reconnu. Là, ça existe. La seule façon que tu peux être embauché comme paramédic pour le ministère, c'est pour faire de l'assurance qualité. Sinon, ça n'existe pas. Là. Un paramédic ne peut pas travailler. L'assurance qualité, c'est quoi? Ben, c'est des paramédics qui évaluent d'autres paramédics sur le terrain. C'est ça. C'est
OK. Pour le compte du gouvernement, pour s'assurer que les services donnés par les compagnies privées sont à la hauteur.
Que les services faites par les paramédics soient à la hauteur. Que les soins donnés soient à la hauteur.
OK.
C'est ça.
Donc, ouais. Là, tu acceptes cette offre-là. Tu décides de contribuer via Je Contribue et on t'offre ce contrat-là dont les termes sont ressemblent à quoi?
Ben, on m'embauche à titre de paramédic à l'assurance qualité. Donc, on me dit, vu qu'il n'y a pas d'emploi de paramédic au ministère, on m'embauche comme paramédic à l'assurance qualité. J'utilise ce titre-là pour la rémunération. Fait qu'exemple, moi, j'arrive, on calcule mon ancienneté, c'est 10 ans d'ancienneté, on me dit, on va te rémunérer à 32 ou 33 de l'heure. C'est comme ça, fait que viens-t'en. Puis là, on tombe avec les mêmes conditions que les gens qui travaillent dans le réseau public. Là. C'est tout est pareil.
OK. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on démystifie, c'est quoi la différence entre un technicien ambulancier, un ambulancier, un paramédic, juste pour faire qu'on sache de quoi on parle?
Ben ça c'est une excellente question, parce que le terme ambulancier et technicien ambulancier, c'est des choses que nous, on veut plus. Là. Un ambulancier, c'est quoi? C'est une personne qui conduit une ambulance. C'est ça, un ambulancier.
OK.
Technicien ambulancier, c'est qu'ils ont commencé à prendre ce terme-là, vu que avant, tu sais, le fameux mythe là de « Hey, t'as-tu peur du sang, toi? Ah ouais, embarque, là. » Avant, c'était ça. Là. C'était comme ça qu'ils trouvaient les ambulanciers. C'était « T'as-tu peur du sang? » C'était « Oui. » Puis là, il y avait une petite formation de secouriste. Mais la profession a évolué beaucoup. Puis à ce temps, c'est rendu un DEC pour devenir paramédic. Puis c'est quoi un paramédic? Ben c'est quelqu'un qui administre des soins préhospitaliers. Donc, le terme, il est important. Martin dit souvent que les mots sont importants. Mmh. Ben, le terme est très important parce que ça fait, on n'est pas juste des conducteurs d'ambulance, là. On administre des soins, on stabilise des patients, puis on réanime des patients. Fait qu'on administre, on désamorce des situations pour aider à l'hôpital.
Vous êtes pas des brancardiers sur un terrain de soccer qui ramasse un joueur qui fake, là. T'sais.
Non. C'est différent. Non. On est bien loin de ça.
Donc là, on a fait appel à vous pour ces compétences-là, j'imagine, et on a décidé de vous rémunérer à la hauteur de ce qui est reconnu comme votre salaire selon l'échelle salariale, l'ancienneté et tout ça dans l'entreprise privée. Donc, ça donnait entre 32-33 $, c'est ça?
Pour moi, qui est à 10 ans d'ancienneté, mais tu sais, j'ai un ami à moi qui était à 37 ou 38 ans d'ancienneté, puis son salaire variait à ça aussi, là, tu sais.
OK. Ça plafonne un peu, mais c'est ce que ça vaut. C'est ça ma question.
Le salaire était correct. Oui, ça avait du sens.
Puis là, on a décidé de changer les termes du contrat, c'est ça?
Ben là, c'est ça qui est arrivé. Le fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le je contribue devait terminer. Puis finalement, le ministère a décidé de repousser d'un an la plateforme Je contribue, puis la façon de faire.
De repousser, de prolonger?
De prolonger, exactement. Okay. De prolonger l'entente d'un an. Mais ils ont requalifié les professions. Puis comme, par exemple, la mienne, paramédic, ben au lieu de créer un poste paramédic au sein du ministère, ben ils ont dit, paramédic, ben ça équivaut à un aide de service.
Et un aide de service, c'est?
C'est une job étudiante. Ce que je voyais en clinique de dépistage, un aide de service, c'est quelqu'un qui accueille les patients, qui désinfecte les chaises, qui désinfecte les tables, puis qui vide les poubelles.
Mais ne fait pas de soins, ne stabilise et ne réanime
zéro
personne.
Zéro soin. Rien. Zéro rien. Puis là, c'est comme ça qu'ils nous ont qualifiés. Fait que moi, évidemment, je l'ai un peu trouvé insultant là, pour la profession.
Ne serait-ce que de ne pas reconnaître vos compétences. Mais là, c'est qu'ils veulent vous donner le salaire de ces gens-là.
Oui, qui est à 21,58.
Mais pourtant, ils savent, eux autres, la différence entre un paramédic et un aide de service, non?
Non, c'est ça l'affaire. Parce que dans la réponse, moi, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand l'événement s'est produit en début janvier, moi, j'ai fait un tweet pour dénoncer ça. C'est devenu super viral. Puis, j'ai accordé plusieurs entrevues dans les médias mainstream.
Oui, si tu me permets, je vais le lire, ton tweet.
Oui, vas-y.
Le CI3S du BSL du Bas-Saint-Laurent m'avise que mon contrat de « je contribue » doit être renouvelé et que mon taux horaire de paramédic qui était de 32 $ sera désormais à 21 $. Mais est-ce une blague? En copie, Monsieur Dubé, ministre de la Santé, vous croyez garder votre monde de cette façon? Donc, c'est assez... c'est sans équivoque, hein?
Ouais, ben ça a fait réagir beaucoup. Puis, je suis content, tu sais, avec raison, là, parce que c'est un manque de respect total, là, à mon humble avis. Puis, dans la réponse du CIS du Bas-Saint-Laurent et du ministère, en fait, c'est qu'ils ont dit, ben on a regardé leur formation puis leurs compétences, puis ce qui se rapprochait le plus de leurs compétences et de leur formation, c'est aide de service.
OK, moi j'ai une question.
Oui.
Salut, Marc-Olivier.
Salut.
Dans quelles circonstances est-ce que cette information-là, ou en tout cas ce changement-là, vous a été communiqué? Tu as reçu un email, tu t'es fait dire ça par ton patron, comment ça a été?
Les ressources humaines de Je contribue qui ont envoyé un courriel dans le mois de décembre pour savoir si je voulais renouveler mon contrat, oui ou non. Moi, j'ai dit oui, mais à ce moment-là, je savais pas. Comment ça a fonctionné, c'est que ils m'ont téléphoné. J'ai pas pu répondre parce que j'étais occupé. Puis ils m'ont laissé sur ma boîte vocale, ils m'ont annoncé que mon salaire allait diminuer. Là. Puis que mon titre d'emploi allait changer.
Après que tu aies accepté de renouveler.
Après que j'aie accepté de renouveler.
C'est bizarre. D'habitude, on s'entend sur le salaire avant, ces choses-là. Est-ce que c'est une manœuvre ou c'est de l'ignorance ou de l'incompétence?
Je pense que c'est de l'incompétence. Honnêtement, là, je n'ai pas. Mais tu sais, c'est sûr, là, c'est les émotions qui parlent, là.
Ouais.
Mais je pense que c'est de la maladresse, tout simplement, mélangé avec de l'incompétence puis de la méconnaissance de notre profession. Parce que tu sais, moi, je me vois mal à être rémunéré à titre d'aide de service, mais de continuer à faire le travail que je faisais pendant la pandémie, qui était des actes aux patients, là, tu sais.
Moi, ça m'apparaît assez étonnant, sinon choquant, que des gens du ministère de la Santé ne fassent pas la différence entre une aide de service et un paramédic et ne soient pas en mesure de connaître et reconnaître vos compétences. Excuse-moi, Martin.
Non, il n'y a pas de tout. Moi, je veux récapituler tout ça, là, parce qu'il y a eu plein de termes et tout le kit. Ouais. OK? Fait que donc, il y a une pandémie. Toi, tu te trouves dans la capacité d'apporter du soutien aux services de santé dans les cliniques de dépistage. OK? Jusque-là, ouais. Ça va. Là, ça, c'est fait dans des conditions X. C'est-à-dire que tu gagnes, tu es un paramédic en fonction de ton expérience, tu fais 33$ à l'heure. J'arrondis, là. OK? Il y en a d'autres qui ont plus d'expérience que toi, mais ça tourne pas mal toujours autour de ça. Là, on avance dans le temps, tu fais ça, tu fais des dépistages. J'ai déjà venu nous en parler dans le crachoir, justement.
Ouais.
Et là, ben, ils étirent ce programme-là pour continuer de donner du soutien au système de santé. Là, il te demande, hey, ça te tente-tu de renouveler? Ben oui, je vais renouveler. Toi, tu fais œuvre utile. En plus, c'est un revenu d'appoint ou peu importe. C'est toi qui décides. Puis tout ça. Puis là, ben, après que tu aies dit, ouais, pas de problème, on t'informe que, début janvier, on vous informe que, ben là, ça se repère à 33$. Ça va être au même salaire que quelqu'un qui nettoie des tables puis qui passe la mop. En gros, c'est ça, là.
C'est ça, mais je veux juste être clair que aide de service, c'est une job qui est super importante.
Oh ouais, non, moi je
dénigre pas ça.
Et c'est non, pas non. Tout, c'est pas juste, tu sais, j'ai dit étudiant, parce que là je vois dans le chat, c'est vrai, c'est pas juste des étudiants. Moi, ce que je veux dire là-dessus, je discrédite zéro, vraiment pas, là, parce que mais moi, tous ceux que j'ai travaillé qui étaient aide de service, ça donnait que c'était
tout des étudiants. Ça s'avérait des étudiants.
C'est ça, ça.
Réglons ça. Là. On n'est pas en train de dire que aide de service, c'est bon rien. C'est pas ça qu'on dit, sauf qu'avec les compétences que ça requiert, ben ça n'a pas la même échelle salariale qu'un paramédic qui s'en va dans un centre de dépistage. C'est tout ce qu'on dit.
Ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, quand ils m'ont embauché, à la base, c'était à titre de paramédic qu'ils m'ont embauché.
Ouais, non, c'est ça. T'as pas été engagé. Fait que, regarde, la bonne vieille gamique, là, moi, j'ai déjà vécu des affaires similaires, mais c'était dans un contexte syndical. On part pas là-dessus. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je ferai pas de bifurquer ça. Mais c'est, on va changer ta description de tâche et voilà. Là, tu vas tomber dans une catégorie. Tu sais, j'ai déjà vu ça comme outil de négociation. Tu sais, des affaires comme ça pour que ça convienne, exemple, à la partie patronale ou vice-versa. C'est un peu ça, dans le fond, qui est après se passer. Ouais.
Ça semble aussi exactement. Une espèce de patente administrative du fait que le titre de paramédic ne semble pas exister au niveau du ministère de la Santé puisqu'il n'en emploie pas. Donc, on a décidé de relier ça à ce qui, selon le jugement des fonctionnaires qui ont pris cette décision-là, correspondait à un aide de service qui requiert beaucoup moins de formation et qui rassemble moins de compétences, c'est ça?
Ben, c'est dans cette lignée-là. Là.
Mais Marco, avant que tu continues, j'ai mal posé ma question tantôt, c'est de ma faute. Tu t'es fait demander en décembre si tu voulais renouveler. Mais les circonstances dans lesquelles tu as appris que ça serait à 21$ de l'heure, c'est quoi?
Je ne peux même pas te
répondre. Un chum à job qui t'a collé à shot, t'as dit, hey, tu savais-tu qu'on va être payé 21$?
C'est le 6 du Bas-Saint-Laurent qui m'ont téléphoné.
Okay,
qui m'ont laissé un message sur ma boîte vocale pour me dire. On va vous envoyer les documents pour renouveler votre contrat, mais prenez note que votre titre d'emploi va changer puis votre rémunération aussi.
OK.
Elle va tomber à 21,58.
Fait que là, dans la majorité des cas, j'imagine que tu as parlé à des collègues, là, c'est un peu la même affaire qui leur est arrivée, email.
Oui.
Rien, mais moi, ce que j'essaie de te faire dire, si c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu de cadre officiel de dire. Tu sais, que ce soit un communiqué de presse, tu sais, quelque chose qui sort du ministère de la Santé, peu importe, ou de l'organisme, là. C'est appelle-lui, puis lui, ah oui, lui, il m'a répondu. Tu sais, ça n'a pas été fait dans un contexte. Ça semble pas avoir été fait dans un contexte formel.
Mais difficile à dire. C'est un arrêté ministériel qui a été envoyé dans les CIS, puis les CIUS. Ça va changer, mais comment nous on a été communiqué, c'est.
Je comprends. Fait que toi, c'est ça qui t'est arrivé, mais d'un autre CIUS, peut-être qu'ils ont procédé autrement. C'est ça.
Mais tu sais, moi, j'ai. Il y, il y a un confrère qui m'a écrit dans une autre région. Puis là, c'est là que parce que moi, au début, je pensais que c'était juste au 6 du Bas-Saint-Laurent que ça changeait. Puis j'ai un confrère qui m'a écrit. Puis lui, il était dans une autre région. Puis il était coordonnateur de la clinique de dépistage. Il faisait ça 4 jours dans sa semaine off. Tu sais, il prenait okay. 4 jours. Il s'en occupait. Il a reçu le même message que moi, même affaire. Là, puis là, on est rentré en contact. Puis là, lui, il m'a envoyé l'arrêté ministériel parce que lui, son 6, où ce qu'il travaillait, bon, il voilà. a envoyé. Moi, je l'ai pas reçu. Parfait. Lui, il l'a reçu.
Fait que là, moi, j'ai reçu un coup de téléphone, puis c'était genre, by the way.
Ben, c'est ça. Merci. Merci de rester, mais...
C'était après que tu aies accepté de renouveler le contrat ouais. qu'on vous a annoncé, qu'on t'a annoncé, en tout cas, le nouveau salaire.
Mais là, fallait-tu que tu signes de quoi? Est-ce que tu as pu dire après, non, à ces conditions-là, ça m'intéresse moins ou peu importe?
Ben là, ce qui est arrivé, c'est que dans la suite des choses, moi, j'ai envoyé un courriel à Je Contribue, là, ressources ouais. humaines de Je Contribue, puis le contrat, il n'est jamais arrivé.
Parce que, ils se sont dit, ouais, d'après moi, lui,
pas sûr. Ben, parce que je leur ai dit que moi, j'étais prêt à revenir, mais pas dans ces conditions-là, okay. puis que je trouvais ça inacceptable. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont écrit qui sont juristes ou parajuristes ou blablabla, puis qui me disaient c'est illégal ce qu'ils font, ils peuvent pas, puis tout. Fait que là, moi, j'avais entrepris des démarches avec le syndicat, la PTS, ça s'appelle, pour les travailleurs techniciens. Puis eux, ils m'ont dit, bon, malheureusement, ils pouvaient rien faire vu que c'était un arrêté ministériel. Mais moi, j'ai décidé de prendre position puis de me tenir. Puis, ça fait bizarre mais de là, dire ça. Là.
D'après toi, si t'es rappelé, tu disais, ouais, écoute, j'ai changé d'idée.
Mais ce qui était si ironique, c'est que ils m'ont offert une job aussi, là. Ils m'ont offert un autre job parce que j'avais appliqué d'une autre façon, puis ils m'ont offert une autre job. Puis là, la madame m'avait appelé, puis elle me laissait un message, puis elle me dit, bon, là, je comprends que vous voulez pas revenir à Je Contribue, mais. On aurait une job pour vous là à l'hôpital de Rimouski. Puis j'ai dit, OK, c'est quoi? Brancardier. Mais on s'y voit. J'irais pas brancardier, là.
Puis là, je veux leur dire encore, parce que dans le chat des host takers, tu sais, là, on n'est pas en train de faire le procès des aides de service. Là.
Non, vraiment pas.
Je répète, là, c'est important. Oui, ça s'avère que des fois, il y a des étudiants, des fois, il y a des gens avec d'autres profils. C'est pas à propos de ça, là. Je comprends que dans chaque CIS, dans chaque CIUS, la situation peut être particulière dans le cas des aides de service. Je vois des gens dans le chat qui œuvrent dans le secteur de la santé et qui disent que là, il y a une pétition qui s'est promenée parce que ils veulent pas qu'ils coupent des aides de service. Fait que on n'est pas en train de faire le procès des aides de service. On est en train de dire que les gens qui travaillent dans des secteurs connexes au secteur de la santé, qui avaient les compétences pour venir en aide, moyennant rémunération, c'est bien normal. Mais là, le deal, il a changé. Puis la façon dont ils ont été informés du changement de deal, bien, change de région en région. Maintenant, la question, tes collègues des autres régions, ceux de ta région, sont-ils aussi outrés que toi? Là? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat, ça, là?
Yeah, c'est ça, ça fait du mécontentement. Là. Tout le monde est fâché de ça. Malheureusement, il y en a qui restent à l'emploi pareil, qui ont accepté ça. Je peux pas les blâmer, là, je veux dire.
Alors, regarde.
Ils ont le droit, c'est dans leur droit. Moi, je fais partie de ceux qui ont quitté en disant, ben, si vous changez pas ça, j'en reviens pas. Puis, la suite, ben, tu sais. Puis, tu sais, je veux juste faire du pouce sur ce que tu as dit. Moi, si à la base, on m'avait embauché comme aide de service, il n'y en aurait jamais eu, là, de tout ça.
Tu es en train de dire, puis je veux pas te mettre des mots dans la bouche, je te pose la question. Penses-tu que, tu sais, de l'extérieur, en tout cas, ça donne un peu l'impression que c'est un peu tendancieux, là, tu sais. Viens-t'en, là, on est dans le rush, on a besoin de ressources compétentes, tu sais, de divers environnements du secteur de la santé. Puis là, ben, regarde, on a moins besoin, tout le kit, fait que. Merci, mais non, merci. Tu sais, c'est quoi la...
Ouais, est-ce que c'est possible que les besoins aient baissé, que ce soit une façon de se départir de quelques personnes et de réduire le coût?
C'est sûr que, tu sais, le dépistage, quand on faisait du 2000 dépistages par jour à une cinquantaine de dépistages par jour, c'est sûr que les besoins sont plus les mêmes. Cependant, j'aimerais rajouter que oui, on a été, tu sais, oui, j'ai les paramédics, on a été appelés pendant la pandémie au plus fort, mais on a été le dernier métier de la santé à être appelé, là. T'sais, on a été les derniers à être appelés et quand ils ont, pour le dépistage, puis quand ils ont vu qu'on était un paquet de monde qui est allé, puis qu'on a répondu à l'appel pour la vaccination, je vous confirme qu'on était dans les premiers, là. Les premiers emplois.
Ouais, 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 tu nous l'as compté. Ouais, tu nous l'as compté aussi, tes expériences en tant que dépisteur et vaccinateur.
Il était bien content d'avoir quelqu'un avec vos compétences, autrement dit. Là.
Ben oui. Ouais, mais tu sais, il faut quand même que tu sais, je veux pas me contredire dans ce que je dis, mais on est quand même une profession qui est méconnue. Moi, j'ai travaillé avec plein de métiers, plein de gens qui font des métiers dans le système de la santé, puis ma job était méconnue, là. Les gens, ah ouais, vous faites tel acte, puis vous faites telle affaire, puis là, je vais, oui, là, on n'est pas juste des transporteurs, là.
Oh ouais, tu n'êtes pas des. Ben, j'ai bien aimé ton analogie, puis c'est pas irrespectueux, mais vous n'êtes pas des chauffeurs d'ambulance.
Mais non,
c'est vous, ça. Vous faites de la réanimation, vous, tu sais, il y a des actes que vous posez qui vont au-delà de. Tu sais,
choisir quelqu'un qui s'est foulé la cheville.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, on est un hybride au Québec, on est un hybride entre les soins avancés de l'Ontario puis les soins primaires. Là, ici, on est des paramédics de soins primaires, mais avec des actes de soins avancés. Okay. Tu sais, on intube des patients, là, puis...
OK.
Fait que là, ça va être la suite des... Parce que là moi, on se connaît, évidemment, là, c'est plus un secret, mais fait que on en a jasé. Fait que là, quand t'as fait ce tweet-là, c'est au début janvier,
ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
Ça a explosé, là. Ça a été les entrevues, dans les médias, ça a fait ça a fait les journaux, ça a fait les médias nationaux, ça a fait jaser, ça a fait réagir le ministre, la classe politique, en fait. Le ministre, il a dû justifier ça. Les oppositions, ils ont repris la nouvelle. Les syndicats, ils ont réagi. Puis, c'est arrivé au même moment que le décès d'un garçon de 10 ans qui est arrivé dans mon coin, puis qui manquait une ambulance dans mon secteur. Fait que là, tout ça a été repris. Puis la classe politique, moi j'ai eu des discussions avec des députés, puis le résultat c'est, OK, hey, il y a vraiment un problème dans le préhospitalier, là. Genre, ça marche pas, on fonce vraiment dans un mur, là. Puis j'ai un ami qui s'appelle, je vais le nommer, là, Al Newman, c'est un journaliste, c'est un paramédic, puis lui, il gère une page qui s'appelle « La dernière ambulance », et sa mission, son objectif, c'est d'exposer ce qui fonctionne pas dans le préhospitalier.
L'état des choses.
C'est d'exposer, puis c'est la référence dans ce qui se passe dans le préhospitalier au Québec. Puis c'est un travail colossal qu'il fait. Là. Puis moi, puis lui,
Ton coin, lui, ou...
Non, il était okay, dans le coin de Montréal. Il est dans votre le coin de Montréal. Puis moi, puis lui, on a eu des discussions. Puis à quelques fois, je collabore avec lui. Mais c'est le travail, je prends aucun crédit, le travail c'est tout lui qui fait, là. C'est un vrai journaliste, là. C'est du vrai travail. Lui, ben, suite à tout ce qui s'est passé, ben ça l'a intéressé des journalistes, puis j'ai été en contact avec eux, puis Al aussi, puis on a révélé des situations, on a exposé des situations aux journalistes, puis eux, ils ont décidé que on va enquêter.
Battre avec ça, là, parce parle-nous-en de l'état des choses, là. Puis je veux pas... Là, on parle d'état des choses. On veut pas faire paniquer le monde. On veut pas faire... Non, mais faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ça va pas bien, là.
Non, ça va pas bien. Puis, tu sais, moi, je dois quand même préciser que je représente aucun syndicat puis je représente pas mon employeur. Je suis à titre personnel.
Mmh. Ouais, c'est un paramédic.
Parce que l'OMERTA, dans le réseau de la santé, il existe. Puis dans le réseau préhospitalier, il existe encore plus. Le réseau préhospitalier, en fait, c'est une question d'image. OK, on doit mettre ça en perspective. C'est quoi l'image? Ben, c'est que les compagnies au Québec, ils veulent toutes bien paraître. Mais ça marche pas. Il y a des bonnes compagnies. Je suis capable de le dire. Si je peux parler de mon employeur, je considère que j'ai un bon employeur qui fait des pieds et des mains pour assurer un service à la population. Ça, j'y donne tout le crédit. Mais c'est pas toutes les compagnies qui agissent comme ça.
Puis là, explique-nous. Il y a une phrase qui me résonne encore dans la tête que tu m'as dite hier. Explique-moi dans tes mots le concept ou en tout cas le fait que ça, c'est des fonds publics administrés par des compagnies privées. Ouais. Il y a des conséquences à ça. Parle-moi-en.
Le préhospitalier, comment ça fonctionne, c'est financé à 100% par le gouvernement. C'est tout du public, c'est tout de l'argent public.
Fait que moi, demain, j'ai les compétences, je me pars une compagnie de services préhospitaliers comme une compagnie d'ambulance. Ben, faut que j'engage des paramédics, faut que j'aille une flotte, faut que je monte patte blanche, là. C'est pas juste, OK, j'en ai quatre, envoyez-moi du monde. C'est pas
non, faut que tu sois structuré, faut que puis, dans le fond, les CIS et CIUS, eux, ils fournissent les contrats d'ambulance aux entreprises. OK. Fait qu'ils ont des permis pour avoir des ambulances. Mais tu peux pas choisir. Tu peux pas dire, moi, j'ai une compagnie d'ambulance puis je vais mettre 20 ambulances sur la route. Là. C'est pas de même que ça marche. Là.
Okay.
Parce que c'est financé par le ministère. Eux, ils vont dire, toi, dans ton secteur, t'as tant d'appels par année, ça prend, on juge que ça prend tant d'ambulances. OK. C'est comme ça ça fonctionne. Parfait. Mais l'achat des véhicules, le matériel, le salaire des paramédics, regarde, tout est financé par le public, mais c'est administré par du privé.
Parfait. Okay. J'ai des questions ultra techniques. Okay, je ne sais pas si tu peux me répondre. Si tu peux pas, réponds-moi pas. Mais tu sais, fait que moi, j'opère une compagnie d'ambulance à cause du territoire où je suis, j'en ai 5-6, c'est ça que ça prend. Puis mes entrées d'argent proviennent du contrat que j'ai avec le CIS ou le CIUS de ma région. Puis ça, ben, c'est financé par le gouvernement, puis les contribuables. Donc, faut-tu j'envoie des factures? Faut-tu j'envoie-tu des feuilles de temps? Tu sais, comment ça marche? Ou bien là, OK, tu me dois 22 000. Tu sais, comment ça marche dans le day-to-day? Comment ça fonctionne? Tu le sais-tu?
Ça a l'air assez tranquille là-dessus, je te dis.
OK, fait que ça fait partie de ce qui n'est pas dit, si je comprends bien.
C'est ça, là. Puis tu sais, quand quelqu'un prend l'ambulance puis qu'il paye la facture, le profit qui est fait avec ça ne va pas dans les poches du gouvernement. Il va dans les poches de la compagnie.
L'entreprise.
Donc, je t'arrête. Donc, ça veut dire, j'imagine, parce que là, il faut qu'il y ait une charte. OK, ramasser quelqu'un, l'intuber, ça vaut tant. Pareil comme la chic-a-chic avec un médecin spécialiste. Tu charges l'acte, toi? C'est ça. Fait que si je vais chercher quelqu'un qui s'est foulé à la cheville, le prix, c'est pas le même que si je m'en vais chercher quelqu'un qui t'apprête à faire un OCV. Là.
C'est pas la même chose.
Toi, tu feras pas les mêmes actes comme paramédic.
Non, je ferai pas les mêmes actes, sauf que, tu sais, ça revient. Il y a pas, c'est pas comme les médecins qui chargent à l'acte.
Pas payé à l'acte.
Non, je suis pas payé à l'acte.
Moi, parfait.
Peu importe la raison de l'appel, de la situation d'urgence, le salaire reste le même, là.
C'est ça, exactement.
Donc, l'opérateur, pour bien résumer, que ça soit clair, donc, l'opérateur charge pas plus ou moins dépendamment de la gravité du coût.
Non.
Un call, c'est un call. Voici l'ensemble des choses que tu pourrais avoir à faire pendant ce call-là.
C'est ça. Mais les budgets sont administrés en fonction du nombre d'appels que ton entreprise fait par année, que tes paramédics font par année.
OK.
Ça, le budget, il est réparti comme ça. Fait que c'est sûr qu'un emploi, tu sais, qu'une compagnie, un petit privé qui a 2 ambulances, il n'y aura pas le même revenu qu'un privé qui a 100 ambulances, là.
Mais il n'y aura pas les mêmes coûts non plus.
Il n'y aura pas les mêmes coûts. Ça sera
pas
la même affaire.
C'est à lui de calculer ce qu'il a besoin pour opérer puis tout. Fait que, autrement dit, ce que tu es en train de dire, sans aller trop dans les technicalités, ce que tu es en train de dire, c'est que autant toi, comme paramédic, comme moi, comme contribuable, puis les gens qui nous regardent, ben, s'ils voulaient savoir comment ça se passe réellement, tu sais, on le sait, là. Je veux dire, tu fais affaire avec le gouvernement, il y a un appel d'offres, tu sais, des affaires. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont documentées formellement, mais pas les ambulances.
Non, à part Montréal. T'es parapublic, donc...
Ouais,
les employeurs ne sont pas tenus d'ouvrir leur livre financier.
Là, tu parles d'urgence santé.
Ouais, c'est ça, urgence santé, ça, c'est parapublic. C'est exposer les coûts. Mais les entreprises privées ne sont pas tenues d'ouvrir leur livre et de leurs états financiers. C'est du privé, fait qu'eux autres, ils gèrent. Mais c'est gros, là. Je veux dire, il y a de la grosse argent qui se brasse là-dedans. Là.
Ça doit être des gros contrats, ben oui.
J'ai une autre question, je suis fatigué. Ouais. Fait qu'on abuse un peu, peut-être. Mais OK. Là, je suis dans une région où il y a plus qu'un opérateur. Qu'est-ce qui détermine vers quel opérateur ça s'en va? Puis là, je te parle pas de pénurie puis tout, en temps normal.
Faudrait que tu sois plus.
Il y a un call au 911. Tu sais, moi, je me rappelle, là, Frank, tu vas peut-être pouvoir me corriger parce que il me semble qu'en Abitibi, il y avait plus qu'un opérateur.
Il y avait Abitémis et.
Il y en avait deux, je pense. Fait que là, il peut y avoir un opérateur qui est déjà sur un call. Tu fais attendre ou t'appelles l'autre?
Non, non,
il faut qu'il y ait un aiguillage. Là.
Ben là, c'est ça l'affaire. Là.
Fais-tu
ben
des gars de territoire comme les towing?
Non.
C'est mon corps, lâche le patient.
Mais historiquement, quand les compagnies ambulancières appartenaient au salon funéraire, parce que ça part de là, ça se battait. Là. Il y avait, mettons, dans une ville, mettons Québec, il pouvait avoir 7-8 compagnies, tout le monde allait sur le call, puis ça se battait pour avoir le... Mais là, à cette heure, c'est... c'était plus payant pour une entreprise, un salon funéraire, d'avoir le patient, le corps décédé que vivant. Parce que là, il ramassait le corps décédé, puis après ça, c'est lui qui faisait les funérailles. Puis
ben, il a fait les services funéraires.
Ben oui, c'est ça.
Puis il y a des régions, je les nommerai pas, mais... Il y a des régions où il y a plusieurs coopératives ou compagnies de services funéraires. C'est une rotation. Tout à fait, ça, je tiens ça de source hyper sûre.
Okay.
Fait que t'as la compagnie ABC, ben là, c'est autour de la B, là. Ah, ou c'est qui est encore là en fin de semaine? C'était à moi la semaine passée. Ben oui, tout à fait. Puis là, je te parle pas dans 1958, là, je te parle de quand je restais au Témis. Là.
Ouais, mais là, pour revenir à ta question, Martin.
Oui.
À cette heure, comment ça fonctionne? Ben, tu sais, moi, je suis dans la ville de Rimouski, OK, je vais le dire. Puis, à Rimouski, on a deux compagnies d'ambulances.
OK. Okay.
On a le même nombre d'ambulances. Mettons, de jour, on a deux à Rimouski chez un, puis deux de l'autre, puis on a un autre à 15 minutes. Puis, c'est réparti par zone.
OK.
Fait que, t'as 1, 2, 3, 4, 5, puis la zone prioritaire, c'est la 1. Fait que, tu sais, c'est de la rotation, on appelle ça du déploiement dynamique. Ça veut dire que dès que t'as un appel, que t'as une ambulance qui part dans la zone 1 qui part, ben la zone qui est la plus loin, là, mettons la 4, s'il y a une ambulance, ben elle va aller dans le 1. Puis tu sais, ils vont couvrir comme ça. Il n'y a plus de genre, ah, j'appelle telle compagnie ambulancière. Quand t'appelles le 9-1, tu choisis pas l'entreprise.
Non, je comprends.
Quand t'appelles le patient, il appelle l'ambulance, il s'en fout de la compagnie, c'est une ambulance qu'il veut.
Fait que t'es en train de dire qu'il y a une contingence. Il y a un backup qui part et qui s'en va dans la région où la personne est occupée.
C'est ça. Il y a du déploiement dynamique. C'est ça.
OK. Fait que ça assure une continuité.
Fait que là, les choses qui se passent, Marco, c'est pas compliqué, là. C'est que là, il y a une pénurie. Il n'y en a pas assez. Ça fournit pas, là. C'est ça qui se passe actuellement, là. Comment tu nous mets ça en mots, là? Tu m'as donné des chiffres qui étaient assez épeurants, là, hier.
Hier, pour la région de Montréal, le chiffre de nuit, c'était -41 paramédics qui étaient sur la route. Là. Puis tu sais, quand on s'est parlé de ça, Martin, hier, je cherchais le plan de contingence, là, c'était quoi, puis je l'ai trouvé. Puis dans le fond, quand qu'il y a urgence santé tombe au plan de contingence 2, qui était hier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les périodes de repas des paramédics sont réduites à 30 minutes. Les paramédics doivent aller dans des centres hospitaliers les plus près, parce que quand t'es à Montréal ou t'es à Québec, dans un grand centre, tout dépendamment de l'état de ton patient, si c'est un AVC, si c'est un infarctus, un accident, t'as des centres hospitaliers
tu iras pas
au même plat. Mais là, c'est comme tout. Non, regarde, tu vas au plus proche, faut que tu dormes ton patient.
Il faut libérer les ambulances le plus vite possible parce qu'il n'y en a pas assez pour assurer un service à l'ancienne.
Ça
vers les établissements spécialisés. En Côte-Nord aussi, c'est l'hécatombe. Hein? On dit que la Côte-Nord a été privée de 6000 heures de services ambulanciers depuis le 1er avril dernier. Hey. C'est sorti avant hier. Il en manque beaucoup d'ambulanciers à travers le Québec. Puis c'est difficile de voir comment on va...
Mais tu sais, il y a des solutions, mais il y en a des solutions, là, puis on...
Mais avant que tu y ailles, parce que je sais que t'es un gars de solution, là, le problème, là, c'est-tu qu'il n'y a pas assez d'ambulanciers ou qu'il faut gérer autrement? Attends un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas assez de paramédics ou s'il faut gérer autrement?
Je te dirais les deux.
OK.
C'est les deux, parce que les jeunes qui sortent du cégep, qui commencent leur carrière de paramédic, je pourrais pas dire le pourcentage, mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y en a beaucoup qui quittent, là. Parce que les conditions de travail sont archaïques. La conciliation de travail-famille, il y en a pas. Moi, ma conjointe était paramédic. On a deux enfants ensemble, puis elle est obligée. C'est elle qui a quitté la profession. Puis ça, c'est, là, j'ai fait un tweet là-dessus, puis là, je me suis fait ramasser en disant pourquoi c'est elle qui a quitté, c'est parce que c'est une femme ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun rapport, c'était juste une question d'avantage dans l'ancienneté. J'étais plus ancien qu'elle, puis j'étais mieux placé en termes de conditions.
Pour la famille. Ça.
C'était uniquement ça, parce que si elle avait eu des meilleures conditions, un meilleur avantage, c'est moi qui aurais quitté.
À la limite, ça ne nous regarde pas, tu sais, je veux dire, je pense qu'on n'a pas à s'immiscer dans les raisons de ce choix-là, puis je suis convaincu que vous avez fait le meilleur choix pour le bien-être de la famille.
C'est exactement ça. Mais je précisais parce que ça avait fait jaser à ce moment-là.
Il y en a qui aiment ça, trouver des raisons d'humilité où il n'y en a pas. Ouais.
C'est ça, je veux juste le préciser. Puis les jeunes, ils restent pas, puis ceux qui sont en place, tu sais, c'est l'été passé ou au printemps passé, là, peut-être même un petit peu avant, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des paramédics au Québec, puis c'était 60% qui pensaient à quitter, là.
Oh.
Parce que
Pense-y, 60, là, puis il en manque.
Ben oui, il en manque, mais c'est parce que l'emploi, tu sais, comme moi, un gars comme moi, là, qui ça fait 10 ans qu'il est là, moi, je suis considéré comme un gars qui, ça fait 10 ans qu'il est là et qui quittera pas. Moi, je suis considéré comme ça. Je suis un acquis, exactement. Ça fait 10 ans, il est rendu à 31 ans, il s'en ira pas. Sauf que je mentirais de dire que j'ai pas pensé à quitter, là. Je mentirais parce que j'y ai pensé, parce que il y en a pas d'avancement dans cet emploi-là. Il y en a pas d'avancement. Tu peux pas travailler à l'hôpital, tu peux pas travailler dans un CLSC, tu peux juste être paramédic dans une ambulance. C'est tout. Puis les quarts de travail, c'est des quarts de 12 heures. Après ça, tu as des horaires de faction. Les heures d'affection, si je vais l'expliquer, c'est des paramédics qui sont sur appel de garde 24 heures sur 24 pendant 7 jours.
OK.
Mais qui sont.
Est-ce que c'est pendant les journées que tu ne travailles pas?
Non.
Ça fait partie. OK. Fait que ça fait partie de ta rotation de chiffre.
Tu travailles une semaine sur deux. Quand tu es sur un arrêt d'affection, tu travailles une semaine sur deux. Puis souvent, les paramédics qui sont en arrêt d'affection, bien ça coûte pas cher parce que. Souvent, t'es chez vous. Il faut que tu restes dans un rayon de 5 minutes de la caserne. Puis là, il faut que tu ailles ton radio tout le temps sur toi parce que tu peux te faire encoder pour un appel à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, n'importe. Tu sais, c'est 24 heures. Là.
Ouais, ouais.
Puis, t'es 24 heures de garde, mais t'es rémunéré seulement que pour 11 heures et 43 minutes. Ça veut dire que 1 heure sur 2, c'est du bénévolat.
Tu fais du bénévolat. Make even numbers great again. Pourquoi à 11h43?
Si c'est bon, à cause d'une perte de repas, là. Je pourrais même pas te dire pourquoi.
OK. Fait que toi, t'es. Attends un peu, là. Faut que tout le monde comprenne bien, là. Fait que toi, t'es disponible 24 heures. Tu peux pas aller faire de skidoo. Tu peux pas aller à nulle part. Faut que tu sois au bout de ton sel 24 heures de temps, mais ils t'en payent moins que la moitié.
C'est ça.
Puis ça demande pourquoi 60%. En tout cas.
Mais ça, puis ça, c'était une mesure temporaire qui a été instaurée en 1989. Quand il y a eu la transition entre les salons funéraires et les entreprises ambulancières, le gouvernement de l'époque avait dit « On va mettre des horaires d'affection, mais inquiétez-vous pas, c'est temporaire. On va changer ça. C'est une question de 1-2 ans. » Puis aujourd'hui, on est encore pris avec ça. Là,
ben, ça fait économiser, fait qu'on a décidé de
ben, pas... Ça coûte pas cher, mais sauf que c'est des délais. Parce que dans le réseau de la santé, OK, on est... Moi, ça me fait capoter, ça, là. On est brainwashed. À chaque fois qu'on fait des revendications syndicales pour améliorer nos conditions de travail ou quoi que ce soit, on se fait toujours répondre la réponse classique, c'est « Ouais, mais pensez à vos patients. » C'est toujours ça qu'on se fait dire. Comme si on n'avait pas le droit d'améliorer nos conditions, comme si on n'avait pas le droit d'améliorer notre sort ou nos horaires ou quoi que ce soit, parce qu'on se fait toujours dire « Ouais, mais tu sais, pensez aux patients. Vous êtes supposé être dédié, là, tu sais. » C'est un job.
La vocation.
C'est la vocation. Ouais.
Comme des bonnes sœurs dans un couvent, puis t'es tanné de laver le plancher à quatre pattes. Offre ça en sacrifice au Seigneur.
Mais tu sais, qu'est-ce que j'entends dans ce que tu dis, Marco, pour vrai, c'est j'ai l'impression de retourner une semaine en arrière, puis d'être avec Jonathan Saint-Pierre, mais dans un autre métier.
Ah oui.
Tu sais, parce que. Mais là, je vais avoir d'autres questions, mais. Toi, là, je comprends que tu as un peu répondu tantôt, mais tu m'as pris de court un peu, mais. Fait que tu y as pensé à quitter, là.
Oui, moi, j'y ai pensé. Puis, j'ai pas de gêne à le dire, j'ai pas de honte à le dire, parce que je suis arrivé à un moment de ma carrière que je vois pas l'avancement que je peux faire.
Ouais.
Tu sais, je vois pas comment je peux être plus que paramédic, tu sais.
Je comprends.
C'est quoi je peux faire de plus? Il n'y a pas grand porte qui s'ouvre à moi. C'est sûr, je demeure en région. T'sais. quelqu'un qui travaille à Montréal dans, comme paramédic, il peut faire, il y a des choses, l'escouade vélo, l'escouade tactique, bon, il y a des, mais tu sais, c'est pas tous les jours, ça, là.
Est-ce qu'une meilleure reconnaissance de votre formation puis de vos compétences pourrait contribuer à ce qu'il y ait de l'avancement ou à vous faire intégrer d'autres types d'emplois une fois que vous êtes tanné de la vie stressante et très, très engagée de paramédic?
Ça serait ça qui devrait être fait. Moi, c'est ce que je souhaite. Tu sais, moi, je travaille 7 jours sur 14. J'ai 7 jours que je travaille pas. Mais moi, si on me l'offrait dans des conditions acceptables, puis qu'on me disait, regarde, on aurait besoin de toi pour faire du pré-triage à l'hôpital, tu serais-tu intéressé? Oui. On aurait besoin de toi pour aller prendre des signes vitaux dans une clinique, à l'hôpital, clinique de cardiologie, aller faire des électrocardiogrammes, tu serais-tu intéressé? Oui.
OK, mais moi, j'ai de quoi, je comprends.
Mais ton titre te donne pas accès à ça.
Non, j'ai pas d'ordre professionnel. On n'a pas d'ordre professionnel. On n'est pas... Tu sais, c'est bien compliqué.
Il y a quelque chose que je comprends pas.
Si les compétences... Si les paramédics existaient, tu sais, ou étaient gérés par le ministère, est-ce que vous auriez une plus grande place dans le système de santé, d'après toi?
Mais je pense que ça contribuerait... Oui, moi, mon souhait, puis là, je sais que je ferai pas l'affaire de tous les paramédics qui vont écouter ça, mais moi, mon souhait, ce serait que des entreprises privées, ça existe plus, que ça serait un service public géré par le gouvernement. Moi, ce serait mon souhait. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je travaille pour un employeur ici à Rimouski, mais mon employeur, il est aussi en Beauce, puis il est aussi dans la Naudière. Puis si je change, mettons demain matin, je dis ah, je vais aller travailler en Beauce, ben mon ancienneté, je la perds, là. C'est fini, là. Je recommence à zéro. Si je change d'employeur, je recommence à zéro, c'est fini. Il y a juste mon salaire qui va rester le même. Toute mon ancienneté, c'est mis à poubelle, là.
OK. Avec les avantages sociaux que ça donne.
Avec les avantages, c'est ça. Mais tu sais, comme tu parlais de la Courneuve tantôt qui parle, tu sais, 6000 heures. Mais le problème, c'est la compagnie qui dessert la Courneuve. Et eux autres, ils disent « on n'a pas de monde », mais c'est parce qu'ils offrent aucun incitatif à y aller. Il n'y en a pas d'incitatif. Tu sais, le policier de la Sûreté du Québec, là, qui s'en va travailler dans le Nord, là, peut-être que ça ne fera pas son affaire, mais il va être dédommagé pour ça. Il va l'avoir, les incitatifs. Tu sais, il va avoir des primes, puis il va avoir le salaire, puis il va avoir ci, puis il va avoir ça. Nous autres, il n'y a rien. Il n'y en a pas d'incitatif, ça n'existe pas.
Ils font rien pour vous attirer, puis après ça, ils se plaignent que vous n'y allez pas.
Mais c'est ça. Puis tu sais, le ministre, il dit... nous autres, on veut que le réseau de la santé, ce soit un employeur, on veut être un employeur de choix. Puis dans la même semaine qu'il dit ça, son mandataire à la table de négociation ose dire que nos demandes sont trop exigeantes. Et il nous offre 2%, là je vais parler de salaire, mais il offre 2% d'augmentation sur une inflation augmentée à 8%. Comment tu veux arriver? Tu sais, c'est pas normal. Il y a trop d'argent qui se perd, là. C'est tout. C'est...
J'ai deux questions techniques pour toi, Marco, parce que le temps file. Là. La première, tu dis que quand tu es sur un horaire, comment t'appelais ça? Horaire de faction. Mais là, tu dis, je travaille 16 jours, 12 heures, puis je suis 16 jours off. C'est quand tu es en horaire de faction?
Pendant ton séjour de travail, t'es pas...
OK.
Attends, t'es mort. Actuellement, moi, je travaille 16 jours dans ma période de 15, dans ma quinzaine. Mais ouais. Moi, je suis sur un horaire un quart de travail à l'heure. Moi, je fais des quarts de 12 heures parce qu'il y a des types d'horaires de travail.
OK.
Fait que moi, je travaille à Rimouski, puis je suis sur un quart de travail 12 heures. C'est-à-dire que je me punch à 18 heures, puis à 6 heures le matin, si je fais pas d'over, je dépunch, je m'en vais chez nous. En faction, tu punches mettons exemple, tu punches le mardi matin, puis tu redépunches le mardi suivant.
Fait que... Ouais, mais mon point, c'est que si tu es payé 11h43 sur les 24 heures que tu es là, Tu perds au change. Ça veut dire quoi? L'autre semaine, t'es off? Je comprends pas.
L'autre semaine, t'es off. Tu travailles une semaine sur deux. OK.
Mais c'est quoi qui détermine si tu vas être un horaire de faction ou pas?
C'est l'ancienneté. Loterie? C'est l'ancienneté. Okay. C'est l'ancienneté dans l'entreprise. C'est simple. Moi, ça fait 10 ans. Puis je viens d'avoir mon poste. Là. J'ai eu la semaine passée mon poste à l'heure. Là, sur un horaire à l'heure. Je l'ai eu la semaine passée.
OK. Ouais. Deuxième question, ça vient du chat. Avez-vous le droit d'administrer de la médication autre que de la nitro?
Oui, on administre de l'aspirine, de la nitro, ça c'est pour les patients en infarctus ou en OAP qu'on appelle. Mm. Après ça, on donne, selon certaines régions, comme moi la mienne au Bas-Saint-Laurent, on va donner du fentanyl, on donne de l'analoxone, d'épinéphrine, du glucagon.
L'naloxone, est-ce que c'est le médicament qui vient pour protéger des overdoses?
Oui.
OK.
Mais nous autres...
C'était long, ça, hein?
Comment?
Avant que ce soit disponible, ça a été long. Avant que, je pense que vous l'avez demandé longtemps avant que ce soit disponible, ce produit-là.
C'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Okay.
Parce que je me souviens que ce médicament-là qui vient contrer une overdose potentiellement mortelle, et on vous refusait le fait de pouvoir l'administrer, si je me rappelle bien.
Ben, on l'a eu en même temps que la crise du fentanyl quand c'est arrivé à Montréal.
Ah, OK.
Je te dirais, Montréal se fait toucher. Ça fait pas longtemps qu'on l'a, mais tu vois-tu,
c'est plus facile
d'administrer de l'naloxone d'un badaud qui va passer, là, n'importe qui n'a rien dans ses poches qu'un paramédic en administre, parce que nous, on a des critères d'administration qu'on doit respecter, puis tu sais, ben souvent, quelqu'un pourra en donner, puis genre, ah, c'est correct, là, tu sais. Puis on donne aussi du salbutamol pour les patients qui ont de la dyspnée, là, de la difficulté à respirer. Fait que c'est pas mal, mais tu sais, si on se compare à l'Ontario, on a quoi, j'ai nommé 7 médicaments. En Ontario, il y en a une quinzaine, quasiment 20. Je veux dire, on est à des années-lumière, là, de, tu sais, parce que le premier ministre, il aime ça se comparer à l'Ontario, mais les soins préhospitaliers, on est à des années-lumière, là, de l'Ontario, là.
Là, j'ai une autre question.
Oui.
Je ne sais pas jusqu'où tu peux aller, mais tu sais, c'est parce que les mots sont importants. Tu as utilisé des mots qui frappent l'imaginaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur ce que tu as toi-même appelé l'omerta? Tu parles de quoi quand tu dis ça? T'sais, moi, j'ai posé plein de questions, là, mais est-ce que c'était ça ou il y a d'autres choses?
Ben, l'omerta dans le réseau préhospitalier, c'est... J'en reviens au début de l'entrevue quand je parlais de l'image.
Mm-hmm.
Quand tu oses critiquer l'image d'une compagnie, t'es à risque de représailles, de mise en demeure, puis de poursuites judiciaires. Si je parlais contre mon employeur, je pourrais être à risque de suspension, puis de...
Mais c'est quoi qui cache?
Faut leur poser la question. c'est ça le nerf de la guerre, là. C'est quoi qui cache? Tu sais, moi, je...
Ouais, mais Marco, tu dois bien toujours bien avoir une
quelle
idée,
information
là,
qui vous manque que vous voulez, là?
Oui, c'est ça, là. Tu dois toujours. Ben, tu sais, ils nous cachent des affaires. J'entends d'autres mondes dire ça. Puis,
on ne veut pas te mettre
en
boîte.
On parle pas
d'eux
autres comme on parle avec toi.
Non, je sais. Mais c'est parce que c'est tellement complexe comme réseau, comme que tu sais, nous autres, moi ce que je veux, là. Comme citoyen, là. Je vais parler comme citoyen, OK?
Okay.
Moi, je vois le budget là, 2021-2022 du réseau préhospitalier, là, ça a coûté 659 millions aux contribuables. Moi, je veux savoir, là, il est arrivé quoi avec cet argent-là? Comment ça, il y a des trucks qui ferment? Comment ça, ils sont pas capables de mettre des paramédics pour combler des corps de travail? Comment ça, ils sont pas capables de garder leur monde? Comment ça, il y a des employeurs qui s'enrichissent avec cet argent-là puis qui se payent des flottes de taxis ou qui se payent des motels ou qui s'achètent ci ou qui s'achètent ça? Comment ça se fait, mais qui sont... Tu sais, c'est ça que je veux savoir.
C'est les détails entre le deal entre le gouvernement et ces entreprises privées-là qui manquent, c'est ça?
Et moi, je veux savoir... J'ai lu cette phrase-là, OK? C'est un confrère, je vais pas nommer son nom, mais c'est la meilleure phrase que j'ai vue qui résume assez bien le réseau préhospitalier. Quand t'es paramédic et que tu rentres travailler, t'es coupable de tout, puis l'employeur, puis le ministère est responsable de rien. OK? Ça veut dire là que quand... Je vais donner un exemple. Moi, là, OK, ou n'importe quel paramédic qui est sur un corps de travail à l'heure, comme OK, c'est que t'es censé répondre dans la minute. T'appelles le 911, moi, je suis affecté là dans la minute que t'appelles. T'as un appel à tel endroit, go, faut que tu partes. Si ça m'a pris 1 minute 4, 1 minute 5, va falloir que je me justifie pourquoi ça a pris ça, OK? Là, on va me dire, c'est de ta faute, s'il arrive de quoi, si le patient, il meurt, blablabla. Mais d'un autre côté, quand un employeur ferme son ambulance pendant 12 heures de temps, OK, parce qu'il n'y avait pas de monde ou qu'il n'a pas voulu payer d'overtime ou, garde, nomme les raisons, c'est quoi les conséquences que lui a? C'est quoi qui se passe avec lui? C'est quoi le ministère, il donne comme conséquence? Ben, ils donnent rien parce que ça se tient tout entre eux autres. Il n'y en a pas de conséquences. Mmh. Puis, quand je dis que les paramédics sont coupables de tout, ben, c'est vrai parce que si moi, je... Regarde, quand je faisais de l'horaire de faction, OK, puis puis que je me faisais appeler à 3h du matin, puis j'étais en train de dormir dans mon lit, dans mon sommeil profond, puis je me fais répondre, je me fais appeler pour un arrêt cardiaque. Ça se peut-tu que quand je me réveille, je ne sois pas dans le top de ma game, que je suis encore endormi? Mais si je fais une erreur, là, c'est de ma faute à moi, là. C'est moi qui vais être blâmé, puis ils vont dire, « Hey, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça. » Ouais, mais Chris, là, 5 minutes, je dormais dans mon lit, là. Je dormais, j'étais dans mon sommeil, là. « Ah, non, mais c'est pas mon problème, ça. Ça, c'est pas mon problème. » C'est ça qu'on veut.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'est ça qu'on veut changer. C'est ça qu'on veut. On veut que les horaires de faction, ça tombe. On n'en veut plus de ça. Puis on veut de la transparence au ministère de la Santé. On veut... Cette semaine, ça a été parlé à l'Assemblée nationale. Il y a parti d'opposition, Joël Arsenault du Parti québécois, il a questionné le ministre de la Santé là-dessus. Puis lui, il a dit, « Alors, tout va bien. On a fait beaucoup, puis on a converti beaucoup d'horaires de faction. Ouais, mais t'as converti à coût zéro. » C'est quoi coût zéro? Ça veut dire que au lieu d'avoir une ambulance en faction qui couvre pendant 24 heures, tu as fait un horaire à l'heure. Je suis d'accord, mais juste pendant 12 heures. Ça veut dire que tu as 12 heures. Là,
12 heures qu'il n'y a pas de service.
Pas que c'est pas couvert, là, c'est ça.
Que c'est pas couvert. Fait que là, c'est du backup dans une autre ville à côté qui va venir. Puis ça augmente les délais.
Ben oui, puis Dieu sait que les délais sont importants quand on va secourir quelqu'un. Les secondes comptent dans le cas d'un arrêt cardiaque ou d'un AVC. Il y a des traitements qui peuvent sauver des vies ou améliorer les chances de rétablissement dans les premières minutes. Après ça, il est trop tard pour ces traitements. Là, puis
t'sais, François, là, dans un arrêt cardiaque, une personne qui fait un arrêt cardiaque puis qui a pas de manœuvre qui est faite, là, chaque minute, c'est 10% de chance de moins de réanimation. Okay? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'après 10 minutes, s'il y a personne qui fait du RCR, là, après 10 minutes, c'est fini. Là, okay? Puis bien souvent, le RCR, c'est vrai qu'il n'est pas fait. Mais moi, quand je travaille en faction, en arrêt de faction, là, ça me prend ça 10 minutes de partir. Parce que j'étais chez nous, puis mon collègue était chez eux, puis fallait que je déblaye mon char en plein hiver, puis là, fallait que j'enlève la neige dans ma cour parce que qu'est-ce qu'il fait tempête, puis tout. Là, puis après ça, on me dit, ouais, mais tu sais, t'as oublié de faire telle affaire. Chris, excusez, mais pas de même ça marche, là. T'sais, mais arrêtez de tout pousser sur notre dos, là, genre.
Ouais, on sent ce que t'as failli dire, ça traduit bien, je pense, ton état d'esprit par rapport à ça. Là, on est très, très, je sais pas si c'est de l'empathie, non, mais on te comprend.
On a vu quand même un certain contrôle, là. Je me suis ramené, mais j'ai manqué le dire.
J'ai une question.
Mais on l'a senti, puis ça, je pense que ça en dit long aussi.
J'ai une question tough pour toi.
Ouais.
Si tu peux pas répondre, je pense que tout le monde va comprendre, là, OK? Fait que ça en trouve bien à l'aise, mais... Penses-tu que ce soit déjà arrivé, peu importe où, là, que des compagnies, des opérateurs ou des entreprises d'ambulance ou de paramédics n'est pas divulgué le fait que, peut-être malgré eux, ils se trouvaient en bris de service. Ça fait-tu partie des affaires qui ont peut-être pu avoir été cachées dans le passé, ça?
Ben, les bris de service...
Bris de service ou incapacité de répondre ou whatever la terminologie, là?
Ben, c'est sûr que quand une entreprise ferme une ambulance, ils doivent viser le CIS, son CIS d'appartenance, son CIUS. Ça, c'est clair. Après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de la gestion de risque. Okay. La gestion de risque, là, OK, je sais, ça va être montré, on va voir ma face à soir, là, on va voir. La gestion de risque, c'est ça, là. On se croise les doigts, puis on espère qu'il se passe rien. C'est ça, la gestion de risque.
Oh boy, OK. Puis dans les cas où il se passe quelque chose, il va y avoir un service quand même, mais le délai risque d'être...
Ben, quand il arrive de quoi, tu sais, je vais pas raconter l'histoire du petit garçon de 10 ans par respect pour la famille, etc. Puis ça me regarde pas. Mais dans ce contexte-là, où ce que ça a pris 40 minutes avoir une ambulance, nous, ça fait des années puis des années qu'on dit que quand l'ambulance de Squatec part sur un appel, il part pendant 3 heures, ça prend du déploiement dynamique, ça prend une ambulance qui vient de couvrir le territoire. Puis ça fait des années que le CIS fait une gestion de risque, qui se croise les doigts. Là, c'est arrivé, ça a pété, puis là, tout le monde fait « Ah ouais, mais là, les études montraient que dans ce village-là, il n'y a pas assez d'appels pour mettre une ambulance. » Ou là, tu sais, là, ils jonglent avec ça. Là. Mais il y en a des solutions, là. On les a, tu sais, là, je parlais d'un gars qui chiale, là. Je sais que j'ai un ami hier qui m'appelait le broyeur, là. Je le salue, d'ailleurs. Mais il y en a des solutions. On les a offert, les solutions. Puis ce qui aiderait grandement à aider pour la pénurie de pour la crise du préhospitalier, c'est que écoute, il y a un gros pourcentage de gens qui appellent l'ambulance qui nécessitent pas une ambulance.
Okay. Ouais, ça, ben c'est ça que je m'en réalité. Allais te dire, tu sais, est-ce qu'on peut nous autres comme utilisateurs, tu sais, pas, tu sais, si ça le requiert pas de pas appeler d'ambulance, tu sais.
Ben tu as le droit d'appeler l'ambulance.
Ouais, mais mec, c'est ça l'affaire. Tu touches à quelque chose.
Il y en a aussi qui sont plus sensibles que d'autres et qui peuvent appeler une ambulance sans avoir besoin d'une ambulance, mais pas par égoïsme, mais juste parce qu'ils paniquent et ils sont pas capables de lire, d'évaluer la gravité de la situation. Fait que dans le doute, ils appellent.
Ils appellent. Le 911, c'est censé être le dernier recours, mais il y en a souvent que c'est le premier recours.
Ouais, non.
Ils appellent au 911. On peut pas. On peut pas juger puis dire « Ah, lui, tu sais, il aurait pas dû appeler ou quoi que ce soit. » Moi, ce que je propose comme solution, c'est de dire « Donnez-nous le pouvoir d'évaluer les patients puis de dire aux patients si oui ou non ça nécessite un transport hospitalier, un transport préhospitalier. Puis sinon, on va le référer dans une autre ressource, dans une clinique, dans un CLSC, on va y trouver, tu sais, on va y trouver un travailleur social, une infirmière coup de main à domicile. » Donnez-nous ce pouvoir-là. En 2018, ça avait été parlé pendant les débats des chefs, pendant la campagne électorale. Puis, il avait été apporté par Jean-François Lisée que si c'était fait de cette façon-là, c'est 40% du temps d'attente qui s'enlevait dans les urgences. T'sais? Puis, c'est en 2018. Ça, c'est combien aujourd'hui? Je pourrais pas le dire. Mais il faudrait qu'on puisse avoir ce pouvoir-là parce que le modèle actuel des services ambulanciers, c'est t'appelles un 911, t'es transporté. Moi, j'ai pas le droit de te dire non, tu vas pas à l'hôpital pour ça. Moi, tu m'appelles, comme ça m'est déjà arrivé, me faire dire j'ai des punaises de lit. Mais Chris, OK, tu veux que je fasse quoi? Tu veux-tu aller à l'hôpital?
Ton oui. Lit?
Ouais, mais lui, j'avais dit, il m'avait dit, j'ai des punaises de lit, ça me pique, puis j'avais répondu, ben, gratte-toi.
Marco, c'est un exemple, mais c'est vraiment arrivé. Il y a des gens qui sont aussi ridicules que ça.
Il y en a, ouais.
Mais oui, on n'a pas besoin de réduire le temps d'attente dans les urgences. Ça va bien, on passe.
Non, mais
c'est deux, trois jours à attendre avec une jambe cassée, puis on va putain, même, c'est vite.
En dur. Dernière question qui vient qui est très pertinente, qui vient d'un de nos Wallsakers. Ça va dans la même ligne, puis. Donc, si je comprends tout ce que tu dis, puis le croisage de doigts, puis toutes ces affaires-là, ça veut dire qu'en gros, les entreprises avisent, les opérateurs avisent le CIS ou le CIUS du fait qu'ils sont à risque, puis personne n'est informé de ça, de la population. Il n'y a rien qui a été mis, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a rien pantoute. Fait que moi, un soir, je n'ai pas l'option de prendre la bonne décision, autrement dit, parce que ça m'est caché, finalement. Tu sais, je veux dire, je comprends là, que là, tu passes pas ta vie à dire, bon, y a-tu des avis puis les ambulants? Ben non, c'est pas ça, je veux dire. Mais t'as aucune matière pour prendre une décision si tu vas te rendre direct ou si tu peux appeler une ambulance pour une affaire de main. Ouais. C'est pas divulgué, ça, là.
Tu sais pas. C'est pas divulgué par les CIS ou CIUS, qui admettons qu'il y a un bris de service à tel endroit, mais je reviens à mon ami.
L'opérateur est obligé de le dire, lui.
Lui, il avise le CIS. Lui, il avise CIS que garde.
Ça, je le comprends.
J'ai pas de monde à soir. Je suis pas capable de combler le corps de travail. On va être obligé de fermer le truc. Puis tu sais, il y a des employeurs qui travaillent fort pour pas que ça arrive. Et j'en reviens. Moi, mon employeur, il travaille fort en tabarouette pour pas que ça ferme les trucks. Mais c'est pas toutes les compagnies qui ont cette volonté-là. Mais, j'en reviens avec mon ami Al Newman de la dernière ambulance. Nous, ben, lui, en fait, il répertorie, là. Quand tu consultes sa page, lui, il est au courant parce que c'est les paramédics qui l'avisent. D'autres, les paramédics. Moi, mettons, je sais, là, que, la compagnie, l'autre bord, c'est le terme, là, mais l'autre compagnie à Rimouski, il y a une ambulance qui ferme. Moi, je vais l'aviser, je vais dire, regarde, telle date, telle heure, il n'y a pas eu d'ambulance pendant tant de temps, elle a été fermée. Puis lui, il va l'exposer publiquement. Puis, il faut le faire. Puis ça l'intéresse les journalistes, tu sais.
Ben ouais, il faut que ça soit. Ouais. Faut que les gens soient informés de ça. Là.
La semaine passée, on annonçait une espèce de site Internet qui allait évaluer et renseigner les patients sur le temps d'attente à l'urgence. Bon, bien que mon expérience en tant que quelqu'un qui suit l'actualité un petit peu me fait douter de que ça va vraiment fonctionner, aussi plate que ça. Là, le DSQ, on nous a fait toutes sortes de belles promesses et ça a été long avant que le premier dossier soit transféré ou disponible. Mais si ça devrait marcher, peut-être qu'on pourrait avoir l'équivalent. Le temps d'ambulance, je sais pas, les opérateurs 911, les pourrait peut-être avoir accès à ça. Dit, bon, ben, je peux vous envoyer une ambulance, mais le délai est de 44 minutes parce qu'elles sont toutes prises présentement. Êtes-vous capable de vous rendre à l'hôpital par vous-même?
Les opérateurs 911, ça, ils l'avisent. Là.
Ils le savent et ils avisent.
Ça dépend toujours aussi de la priorité là, d'appel, là, parce que tu sais, il y a plusieurs priorités. Là. Exemple, une priorité zéro, c'est un arrêt cardiaque. Ça, c'est code mort imminent. Ça veut dire, peu importe, là, ça prend une ambulance au PC. Là. Okay. Tu peux aller sur une priorité 3 qui est il y a quand même un risque, mais c'est plus stable. Tu t'en vas sur un appel priorité 3, il y a une P0 qui sort, il te détourne, tu y vas. Là.
OK. Fait qu'on va aiguiller quand même les ambulances vers les cas les plus urgents. Et celui dont toujours. Le dos il pique à cause de son lit sale, ben, il va attendre un peu plus.
Ça va être une P7, ça va être une priorité 7. Ça va être, tu sais...
On n'est pas sûr que ça va à peine, là. Mais faut qu'on y aille.
Tu vas attendre, tu sais, si... Tu vas attendre longtemps, là. Si tu sais, exemple, Montréal, là, une priorité 7, là, tu vas attendre longtemps,
ça
mon
se peut que, ouais, ça se peut que tu sois aussi bien de faire du pouce ou de prendre le taxi.
Mais tu sais, c'est parce que il y a encore cette mentalité-là de que les gens ont de penser que prendre l'ambulance, tu vas passer plus vite à l'urgence. Ce qui est totalement faux, là. Tu vas être trié comme tout le monde, tu sais. Puis ça, c'est un autre problème d'un grand centre, là. Les paramédics, ils amènent un patient stable, ouais, ils amènent un patient stable, puis ils vont rester pendant 3, 4, 5 heures à l'urgence avec le patient sur leur civière en attendant d'être trié. Mais pendant que l'équipe est là, ils ne sont pas en train de faire des appels. Là.
C'est beaucoup dans l'imaginaire des gens tu sais, qui attendent depuis longtemps l'urgence puis qui voient les civières débarquer de l'ambulance puis passer direct. C'est parce que si on appelle l'ambulance, c'est peut-être parce que leur état était plus grave. Puis c'est pas le fait d'être venu en ambulance. C'est pas une limousine. Là. Ça t'arrives pas VIP. Là.
Non, t'arrives pas. Non, ça brasse là-dedans. Là.
C'est des bonnes règles d'ambulance. Puis effectivement, ouais. Ça brasse.
Quand tu prends l'ambulance, t'es sur la guest list, y a pas de problème, tu vas passer une line-up.
T'en veux du VIP, Frank, m'attend donné, moi, quand le pape y est venu, là, il y en avait du VIP, des ambulances attitrées pour lui, là. Alors, il y en avait de l'argent à mettre, ben oui, il y avait des équipes attitrées pour lui, là.
Avec raison de quoi, au cas où il s'étouffe avec sa bouche.
Ah non, tu vois le parti, sa religion.
Mettons, un dignitaire de n'importe quel pays, whatever, on va, quoi, noliser des ambulances, on va les réserver pour lui au cas?
Regarde, le G7 qu'il y a eu à Charlevoix, il y a quelques années, à ce moment-là, Charlevoix, c'était tout des horaires de faction. Quand il y a eu G7, ça a tout été converti en horaire à l'heure.
Ah, tout le monde,
là, c'est comme dire, finalement, on en a de l'argent, là, parce que, tu sais, on offre des, tu sais, faudrait pas que Trump y arrive de quoi, ou, tu sais, là.
Pour les gens importants, c'est drôle, hein, on en a des ressources.
C'est ça. Puis la population, manger du poil.
Le petit monde, c'est ça.
Mais, ouais, excusez.
Ah, non, vas-y.
Ça revient à dire que, tu sais, des solutions, il y en a, puis... Moi, ce que j'ai énuméré tantôt, outre les conditions de travail là, syndicales, là, des améliorations du salaire, conciliation de travail-famille, fonds de pension, etc. Mais si on parle vraiment de l'accès aux patients, donnez-nous le pouvoir de décider si oui ou non un patient nécessite un transport ambulancier, puis ça va aider grandement. Tu sais, ça va soulager d'une certaine façon, puis on va les orienter ailleurs.
Là. En tout cas, l'omerta que tu décrivais nous permet de douter des raisons pour lesquelles ces solutions-là ne sont pas mises de l'avant. Mmh. Est-ce que la situation actuelle profite à des gens? Est-ce que c'est plus payant? Est-ce que c'est plus avantageux? Bon, on peut spéculer parce que il nous manque des informations et les solutions, en tout cas, semblent exister, là, mais on les met pas.
Écoute, je vais pas embarquer trop dans
ta dernière phrase. On partira pas de théorie de complot, là.
Non, parce que actuellement, je sais de sources sûres qu'il y a des journalistes qui investiguent là-dessus présentement.
OK.
L'Omerta, elle existe. Ça a sorti récemment dans la compagnie La CETAM. Ça, c'est en Montérégie. C'est une coopérative. Il y a un paramédic qui a été suspendu sous enquête parce qu'il a fait respecter son droit de travail. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans une période de 24 heures, un paramédic ne peut pas travailler plus de 16 heures. Mmh. Après 16 heures, là, t'es déclaré inapte.
Okay.
Ben, lui, vu que c'est arrivé dans le temps des fêtes, la période chaude, où tu sais, t'as jamais le droit d'être malade ou quoi que ce soit, Lui, il dépassait son 16 heures. Il a avisé les superviseurs, etc. Tout le monde a dit que c'était correct. Puis après ça, ben il a été suspendu. T'sais.
Parce qu'il n'a pas accepté de retourner.
Parce qu'il n'a pas accepté de continuer.
Okay.
Fait que là, ça a fait ça a brassé, ça a exposé bien des affaires, puis ça a démonté. Le gars, il a juste appliqué ce qui était dans sa convention de travail.
Mmh, ben oui.
Mais l'employeur, lui, a décidé que non, c'est pas le même, ça fonctionne. Puis là, ben, parce qu'il a fait respecter ses conditions de travail, il se fait suspendre. T'as peu, ça marche pas de même, là. Tu peux pas arriver. Sur Twitter, je le dis toujours, c'est une gestion punitive. C'est comme ça, c'est une gestion punitive. Tu parleras pas contre nous, tu parleras pas la liberté d'expression. Ça sonne bizarre, mais la liberté d'expression n'est pas tout. C'est pas juste service ambulancier, là. C'est dans le réseau de la santé, là. Tu sais, tu peux pas parler contre personne. Tu peux pas, ben, pas parler contre personne, mais tu peux pas dénoncer des choses qui sont dénonçables. Tu
non,
peux
c'est
pas.
Puis les médecins, eux, ont un ordre professionnel, mais tandis que vous n'en avez pas un pour vous représenter. Donc, vous ramassez à être dans un mutisme dont vous êtes prisonnier.
Toujours.
Mais Marco, je te rassure, il y a une marge entre ce que tu as décrit aujourd'hui puis prétendre que la vaccination, c'est un génocide. Hein?
Ouais, c'est ça. Tout fois qu'on parle de liberté d'expression ou se tenir debout, maintenant, avec les deux dernières années, on a l'impression de reprendre des expressions conspies, mais c'était des expressions qui valaient quelque chose avant qu'ils ne les brisent. Moi, je suggère qu'on se les réapproprie et qu'on... Deux invités, c'est correct, ça.
Hey, mais moi, j'ai une solution pour toi, j'ai une solution pour toi, Marco. Ça a été mentionné dans le chat des All Stakers, là. Convoi d'ambulance. Let's go.
Et voilà, à Ottawa. Allez, jamais à Ottawa.
On va aller jamais à Ottawa. On va aller faire un gros party, les sirènes, les flashs, puis.
Le spa.
Avec un spa. Excusez, les enfants, ça
se met. On va te laisser aller. Ça fait assez longtemps qu'on abuse de ton temps. On va te laisser t'occuper de ta famille, mais en te souhaitant que ces choses-là soient rentrent dans l'ordre, ou en fait qu'on respecte un peu plus les conditions de travail. Et ce titre-là de paramédic, qui d'ailleurs, quand je me réfère à l'article où tu es cité, où ton tweet est cité dans Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, on te décrit comme un technicien ambulancier et non paramédic. Fait qu'on espère que ça fasse son chemin, cette sensibilisation-là.
On travaille ça fort. Puis tu sais, moi, j'ai des solutions. Puis tu sais, je me prétends pas le sauveur de tout, loin de là. Il y en a qui ont des meilleures solutions que moi. Mais tu sais, moi, je pense qu'on est rendu pour une vraie réforme. Tu sais, une vraie là, réforme. C'est pas une réforme... Parce qu'il y en a eu là, des...
On change des noms, mais tout reste pareil.
Il y a eu des comités de réforme, mais il n'y a aucun paramédic qui siège là-dessus. T'sais. On met des gestionnaires.
C'est toujours en amont, avec des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui ne connaissent pas les problèmes de la réalité du travail comme tel.
Merci Marco d'avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci messieurs.
Bon, ben on va se diriger vers la fin du show, c'est-à-dire la poutine. Et une toune qui n'est pas vraiment un mash-up, mais je pense que ça devrait vous intéresser. Pareil, on vient de parler avec Marc-Olivier Plante, paramédic.
Dictature! Dictature!
Dictature!
Dictature!
Pourquoi va payer la haine?
Va vous en donner du steak. Pour ne pas dire le deep steak.
Écoutez le crachoir, mais tabarnak!
Le Crachoir, épisode 236, service inhospitalier. Vous aurez compris le sens du titre au terme de cette entrevue-là qui a été très, très intéressante. Mais c'est maintenant le moment où Martin doit remplir son devoir et nous cuisiner une petite poutine.
Si vous appréciez le Crachoir et vous avez attrapé au vol ou, tu sais, parce qu'à soir, il faut le dire, là, c'est le Super Bowl. Et ça se peut que ça soit quelque chose qui vous intéresse, puis c'est bien correct, mais ne soyez pas déçus, parce que vous pouvez, après vous être lavé les doigts de cette sauce dégueulasse d'aile de poulet qui mouille dans une soupe de sauce Kraft Barbecue.
Oh, quand je pars à manger autre chose, finalement. Une chance que j'écoute pas ça, moi, le boulingrin.
Vous pouvez évidemment, bien sûr, nous rattraper en podcast sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tout bon, Podcatcher, Android. Mais si vous nous avez attrapés en vol et que vous voulez voir cet épisode en vidéo dans son intégralité, n'est-ce pas? Ben, vous pouvez vous rendre sur patreon.com/crashwar et l'épisode y sera et est disponible en rediffusion pour nos chers et adorés Stakers. Si vous aimez tellement ça que vous voulez nous voir l'enregistrer, ben, vous pouvez devenir, toujours à la même adresse, patreon.com/crashwar. Vous pouvez devenir un All Staker et participer à absolument tout ce que nous enregistrons backstage. Je vais en profiter aussi, Frank, super rapidement pour dire un gros merci à Marc-Olivier parce que c'est pas évident là, la position dans laquelle il se retrouve. Mm-hmm. Il fait partie de ce corps de métier-là, j'ai envie de dire ça comme ça. Puis il se trouve dans la position de vouloir dénoncer des choses. Puis écoute, moi je j'apprécie encore plus qu'il l'ait fait avec nous autres, qu'il soit venu sur notre plateforme.
Au risque de se voir faire des remontrances.
C'est sûr, c'est certain. Fait que merci Marco. Puis lâche pas. Si on peut faire autre chose pour sensibiliser les gens à ce qui se passe, ben moi, en tout cas, personnellement, ça va me faire plaisir. Tu sais qu'on écoute?
Écoute, j'écoute particulier. On pourrait dire que c'est une sorte de version métal, mais c'était un petit peu plus poussé, un petit peu plus pointu que ça, un petit peu plus précis. On va découvrir, grâce à un certain Suburban qui m'a envoyé ça, ce qu'aurait été la chanson Beat It de Michael Jackson si elle eût été composée par le groupe de thrash metal Slayer. Puis pour vrai, là... J'haïs pas ça, mais c'est surtout très réussi parce que, évidemment, Slayer n'a pas fait de version métal de Beat It, mais il y a quelqu'un qui l'a fait et il reproduit à merveille à la fois le son de Slayer, le ton de guitare, tout ça, et la voix et le débit. Écoute, c'est tellement réussi qu'on dirait que Beat It est vraiment une chanson de Slayer. On se quitte là-dessus. Montez le son, ceux qui en sont capables, et les autres, ben, t'as fait ça, ça dure juste un petit 2 minutes, et évidemment, suivra l'after show sur Touski TV, et soyez avec nous pour l'Express cette semaine. D'ailleurs, demain, on va parler de ces ballons chinois et ces objets volants plus ou moins identifiés qui sont abattus ces temps-ci dans le ciel du Canada et des États-Unis, avec Stéphane Roussel, un invité qu'on a déjà reçu et qui est très très pertinent pour nous expliquer ces situations-là. Donc je vous dis à tantôt pour l'after show et à demain pour l'Express à midi pile parce qu'on est live en direct. Salut tout le monde.
De la famille H2O Web Media.